18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous sur Europe 1, ravie de vous retrouver pour deux heures d'information, d'analyse, de débat. C'est votre grand journal du soir, nouvelle journée de mobilisation un peu partout en France, à l'appel de tous les syndicats, y compris la CFDT. Combien étaient-ils notamment à Paris? Tous les chiffres dans un instant dans votre journal, Florence Corren. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Un Premier ministre raisonnablement optimiste et des syndicats qui ont rendez-vous demain à Matignon. Dans 20 minutes, je recevrai Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière. Il était dans le cortège. Il nous dira ce qu'il attend de cette première étape demain. Que peut faire justement Édouard Philippe face à cette nouvelle démonstration de force? On en débat, on en discute avec nos grandes voix dans ce studio dès 18h30. Et puis vous le savez, toute cette semaine, on se détend un peu avant Noël, ça fait pas de mal. Hein. 19h30, tous les soirs, un humoriste pour nous accompagner. Ce soir, Haroun, le nouveau roi de l'humour de société. On adore, on est fan, je ne vous dis que ça. C'est tout à l'heure à 19h30, c'est votre grand journal du soir. Et c'est parti jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Cet âge d'équilibre, c'est pas une question d'opposition dogmatique, c'est une question de justice sociale.
Laurent Berger dans la manifestation contre la réforme des retraites. Beaucoup de monde à Paris cet après-midi, mais on n'a pas encore les chiffres officiels.
Édouard Philippe se dit déterminé à mener à bien la réforme. Tout va se jouer maintenant sur la méthode avec les syndicats.
Et la SNCF a présenté son plan pour vous acheminer le week-end prochain. Il vaut mieux avoir un billet TGV.
Mais le pape François qui lève le secret pontifical pour les affaires d'agression sexuelle, c'est une petite révolution tombée tout à l'heure.
L'effet est fort, en particulier à l'endroit des victimes qui souvent se sont heurtées au silence des autorités une fois que les procès étaient commencés.
Pas de blessés dans l'explosion contre une mairie annexe de Nantes, mais la piste criminelle envisagée et beaucoup de questions.
Les habitants sont très choqués. Pour nous, ça n'a pas de sens. Ils ne voient pas de revendication, il n'y a rien. C'est un acte de violence gratuite.
La Bourse de Paris en repli de 0,39% sous les 6000 points.
Et la tendance météo, c'est avec Anissa, bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Demain, le temps s'annonce pluvieux et humide dans le sud-est et en Bretagne, sur les opposés. Et toujours deux départements vigilance orange aux inondations. Tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Florence Cohen.
C'était la journée test pour les opposants à la réforme des retraites. Tous les syndicats appelaient à manifester aujourd'hui, CFDT comprise, pour la première fois. 13e journée de grève, 3e journée de mobilisation. La principale manifestation s'était lancée en début d'après-midi à Paris, entre la place de la République et la Nation. Les syndicats les plus réfractaires ont manifesté de leur côté, les plus réformistes un peu plus loin. Laurent Berger, le leader de la CFDT, s'est exprimé peu avant le départ et il met la pression sur le gouvernement.
Nous assumons d'être pour un système universel des retraites parce que nous l'avons beaucoup travaillé depuis 10 ans, et nous assumons aussi de vouloir une réforme beaucoup plus juste que celle qui est présentée aujourd'hui, et surtout une réforme qui ne soit pas entachée de cette mesure paramétrique qui va demander aux gens de travailler plus longtemps et en fait qui va incidemment reporter l'âge de départ en retraite de 62 à 64 ans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si le gouvernement, d'ici la fin de la semaine, ne répond pas à nos exigences en retirant l'âge d'équilibre et en rouvrant des discussions sur la pénibilité, par exemple, eh bien, la CFDT se mobilisera de nouveau en janvier. Ce qui est sûr, c'est que cet âge d'équilibre, ce n'est pas une question d'opposition dogmatique, c'est une question de justice sociale. Et quand on touche à la justice sociale, on retrouve la CFDT sur sa route.
Laurent Berger, à votre micro, Olivier Samin, bonsoir. Vous êtes dans le cortège pour Europe 1. Alors, Olivier, on n'a pas encore les chiffres officiels du nombre de manifestants, mais on sait qu'il y avait du monde, on a vu les images. D'ailleurs, quelle est celle que vous en gardez, vous, cet après-midi?
Eh bien, écoutez, l'ambiance, c'est plutôt en tête de manif qu'on la trouve, dans le cortège qui réclame le retrait pur et simple de la réforme. Dans la deuxième partie, c'est plus calme, mais le calme n'empêche pas l'exaspération. Linda, par exemple, militante CFDT de Carrefour, l'âge pivot à 64 ans, ça l'a fait bondir.
64 ans, c'est énorme. Vous nous voyez tenir déjà, nous, les femmes, jusqu'à 64 ans? Moi, déjà, en tant que femme, que j'ai 3 enfants, il faut faire le ménage, il faut s'occuper de ses gamins, il faut faire le devoir de ses gamins. Donc c'est impossible d'aller jusqu'à 64 ans. Déjà là, on est épuisé, j'ai que 37 ans et je suis fatiguée. Vous vous rendez compte, à 64 ans?
Quelques mètres plus loin, Donna, 53 ans, à la CFDT, elle aussi. Elle travaille dans une grosse boîte informatique. L'âge pivot lui reste en travers de la gorge, car elle se voyait bien partir à 62 ans.
Là, je me prends 2 ans de travail en plus, alors que j'ai travaillé tôt. Je commence à travailler tôt. Et si je pars avant, je vais avoir une décote sur ma retraite de 5 à 10% jusqu'à la fin de ma retraite. Et ça, c'est un piège. C'était pas prévu au tableau, ça.
Dans la première partie de la manif, celle de la CGT, de FO, de Solidaires et de la FSU, on trouve de gros bataillons de profs. Fadwa est institutrice depuis 10 ans. Les engagements récents du ministre Jean-Michel Blanquer, engagements sur une revalorisation du salaire des profs pour leur garantir le maintien de leur salaire, Fadwa a du mal à les croire.
On ne sait pas en fait, on ne peut pas tabler sur ce qu'il nous dit en fait. De toute façon, ça dépend toujours de la conjoncture. La conjoncture fait que nos salaires sont gelés depuis 10 ans et on n'a aucune garantie que les choses changent pour l'instant.
Qu'ils aient défilé dans le premier ou dans le deuxième cortège, les manifestants ont tous le sentiment d'avoir marqué un point ce soir face au gouvernement.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1, merci à vous. Et puis dans quelques minutes, 18h20 précisément, soyez au rendez-vous. Yves Verrier, le secrétaire général de Force ouvrière, qui était dans le cortège cet après-midi, sera mon invité.
Et des défilés aussi en province, 20 000 personnes à Marseille, 17 000 à Lyon et Toulouse, 13 000 à Bordeaux selon les chiffres officiels.
Les enseignants mobilisés aussi, on l'a entendu, un quart de grévistes dans le primaire, presque autant Florence dans le secondaire, et ils ont battu le pavé aussi cet après-midi.
Alors ce matin sur Europe 1, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a garanti encore une fois que les pensions de retraite les enseignants ne baisseraient pas, mais pour le reste, c'est flou. Alors, quelle suite peut-il y avoir au mouvement, Virginie Riva ?
Alors, après la mobilisation d'aujourd'hui, certains des syndicats enseignants les plus importants rêvent d'un retrait de la réforme, car pour eux, il n'y a aucun essoufflement et la démission de Jean-Paul Delevoye leur donne des ailes. L'idée est donc de toute façon de rester mobilisés. Ce soir, il y a une réunion de la FSU pour affiner la stratégie. Elle défend un nouveau temps fort, c'est-à-dire une nouvelle journée de grève lors de la reprise en janvier. Mais la suite sera surtout votée en interprofessionnel éducation demain. À côté d'une date à la rentrée, il pourrait y avoir des actions sporadiques dès après-demain, comme des rassemblements à Paris et en province, mais il devrait de toute façon y avoir classe. Mais les enseignants sont vent debout car ils réalisent peu à peu que les revalorisations pourraient ne pas être uniformes. Ils craignent surtout que ceux nés après 75 soient les seuls à avoir des compensations. Avec cette réflexion que nous glissait une leader syndicale, comment on pourra accepter dans une même école un collègue qui gagnera 500 euros de plus qu'un autre né en 74, avec donc un pouvoir d'achat radicalement différent.
Merci Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1. La CGT a aussi revendiqué des coupures de courant. Près de 50 000 foyers privés d'électricité la nuit dernière en Gironde et 40 000 à Lyon dans la matinée.
Il est 18h06 sur Europe 1. La suite du journal, Florence Cohen, Nathalie Lévy.
Et tous ces défilés ont lieu au lendemain de la démission de Jean-Paul Delevoye. D'ailleurs, il n'y a eu aucun manquement des services du gouvernement dans l'affaire des mandats non déclarés du monsieur retraite de l'exécutif. C'est ce qu'on affirme pour l'instant à Matignon.
Alors, on ne dira pas droit dans ses bottes, mais en tout cas, Édouard Philippe répète sa détermination totale à mener la réforme à bien. Il est même raisonnablement optimiste, dit-il, avant de rencontrer les syndicats un par un demain. Est-ce qu'il a raison, Édouard Philippe, d'être aussi confiant, Michaël Darmon ?
En tout cas, il a expliqué effectivement aux députés La République En Marche son positionnement. Ceux-ci sont souvent inquiets de la tournure des événements. Il leur a répété qu'il était ferme, mais pas fermé, déterminé, mais pas intransigeant. Mais plus concrètement, c'est effectivement le retour de la méthode prise du pouls syndicat et des mobilisations aujourd'hui, discussion informelle ce soir, réunion avec les syndicats. Et à Matignon, les consultations reprendront demain en s'inspirant d'une technique, celle qui avait été mise en place par le président de la République pour la réforme du Code du travail. D'abord, on rencontre les syndicats en bilatéral et ensuite en plénière. Pourquoi ? Parce que entre quatre yeux et la porte fermée, eh bien les discussions sont plus libres entre le pouvoir et les syndicalistes. Et quand tout le monde se retrouve, eh bien le gouvernement connaît les vraies marges de manœuvre. Ce matin, en privé, parmi les ministres concernés par le dossier, on restait prudent, mais en laissant deviner des pistes de sortie de crise. Tant à la RATP qu'à la SNCF, les syndicats auront des revendications nombreuses pour arrêter la grève, car ces personnels, il faut le savoir, ne partent pas à la retraite avec l'âge pivot éventuellement, mais avant tout le monde, grâce à leur régime spécial de retraite. Donc ce soir, rien n'est réglé et c'est le niveau des mobilisations qui va fixer la température parce qu'un conflit social a toujours son propre rythme et il ne faut pas le négliger.
Alors sur le terrain, la bonne nouvelle quand même, et on va y venir en détail dans un instant, c'est que la SNCF promet d'acheminer l'ensemble des passagers pourvus d'un billet TGV.
Et c'est une bulle d'oxygène, une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont réservé un billet. Mais on voit bien, l'accent est mis sur le TGV et sur les Ouigo, c'est-à-dire que l'intercité reste un problème. Cela permet au gouvernement de poursuivre la bataille de l'opinion avec des trains qui roulent, eh bien cela permet d'alléger la pression sur les Français tout en l'accentuant sur les grévistes toujours accusés de défendre des privilèges. On le voit, pendant les négociations, le bras de fer va continuer entre le gouvernement et les syndicats des transports et cette bataille-là n'aura pas de trêve.
Merci
Mickaël Darmon du service politique d'Europe 1. Alors on le disait, c'était le jour du soulagement ou le début des ennuis hein, pour vous qui avez peut-être prévu de prendre un train le week-end prochain pour rejoindre votre famille à Noël.
Bah oui, parce que la grève, hein, il faut être clair, elle ne sera probablement pas finie. Et l'entreprise ferroviaire a donc dévoilé son plan pour acheminer le plus de voyageurs possible. Alors est-ce que tout le monde va pouvoir partir, Aurélien Fleureau ?
Alors c'est un engagement qui concerne toutes les personnes ayant déjà un billet TGV qui va du jeudi 19 au dimanche 22 décembre. Mais il y a différents cas de figure. Pour un peu plus de la moitié des passagers, c'est une bonne nouvelle qui a été reçue aujourd'hui. Rien ne change, le train est maintenu. Ensuite, il y a 15% des clients qui ont vu leur train supprimé, mais sont automatiquement basculés sur un autre train partant le même jour. Et puis, il reste un tiers des voyageurs qui, après la suppression de leur train, devront de même trouver un autre trajet, une alternative. Et c'est par exemple ce qu'a fait Adrien.
Au moment où j'ai réussi à avoir un train, donc samedi matin au lieu de vendredi après-midi, ils m'ont dit que je serais remboursé de mon précédent billet et ils m'ont fait payer le tarif plein du nouveau. Quoi. Concrètement, s'il y a 2-3 trains au lieu de 15, si on ne se jette pas dessus, on n'a pas les places. Quoi.
Un changement qui l'oblige à payer 20 euros de plus et il n'est pas le seul dans ce cas de figure. Pourtant, la SNCF avait annoncé que l'échange devait se faire sans frais. La compagnie assure également qu'elle a donc une solution pour les 850 000 passagers ayant déjà réservé sur cette période. Pourtant, tout le monde n'est toujours pas fixé à l'heure qu'il est. Il y a notamment des cas particuliers comme les abonnés TGV Max ou encore ceux qui ont payé leurs billets avec des chèques vacances.
Merci Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Sachez que le trafic sera encore très perturbé demain dans les transports en commun pour le 14e jour consécutif. Légère amélioration tout de même avec un Transilien sur 4, 4 TER sur 10, mais un Intercité sur 6. À la RATP, 8 lignes de métro resteront fermées.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Florence Cohen et Nathalie Lévy.
À suivre dans votre journal de 18h, le pape qui lève le secret pontifical pour les affaires d'agression sexuelle. C'est une petite révolution.
Et puis cette explosion contre une mairie annexe de Nantes. Pas de blessés, mais peut-être une piste criminelle.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, 2h d'infos jusqu'à 20h. 18h12 sur Europe 1, la suite du journal avec Florence Cohen et Nathalie Lévy.
Le pape François vient de lever le secret pontifical sur les dénonciations d'agressions sexuelles tout en prenant quand même quelques précautions. Blandine Hugonnet, vous êtes à Rome pour Europe 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Concrètement, désormais, toute plainte, témoignage ou document conservé par le Saint-Siège sur les affaires de pédophilie pourront être transmis à la justice du pays de l'agresseur et de la victime. Avec cette décision du pape François, fini les secrets au Vatican, résume Monseigneur Patrick Valdrini, chanoine de la cathédrale de Rome. Il est spécialiste du droit de l'Église.
L'effet est fort, en particulier à l'endroit des victimes qui souvent se sont heurtées au silence des autorités une fois que les procès étaient commencés. Or, personne avec ce texte ne peut se réfugier derrière la mention du secret pontifical pour soit considérer que ces affaires sont absolument spéciales et couvertes par le pape, car il s'agit de clercs, soit pour éviter l'application des lois civiles et donc le signalement au procureur de cas de ce genre.
Depuis plusieurs mois, le pape a imposé aux religieux de signaler à l'Église toute agression. Mais dans ce nouveau texte aujourd'hui, pas un mot sur la demande répétée des victimes d'obliger à signaler les abus aux autorités judiciaires du pays.
Blandine
Hugonnet, Europe 1.
Et on vous parle de cette explosion qui a visé la nuit dernière une mairie annexe de Nantes et d'origine criminelle. C'est la maire de la ville, Johanna Roland, qui le dit.
Alors, il n'y a pas de blessés, hein, Renan Coquelin, vous êtes sur place pour Europe 1, mais les dégâts sont assez spectaculaires.
Des barrières et une grande planche de bois ont été installées pour remplacer la porte d'entrée soufflée par la puissance de l'explosion. Une forte déflagration entendue par Barbara, habitante du quartier.
Vers minuit 30, je crois, on a entendu un gros boom, on se demandait ce qui se passait. Ça a fait trembler les murs et les volets et les fenêtres. On pensait que c'était la grue sur le chantier d'à côté qui était tombée et on n'avait aucune idée.
Heureusement, l'explosion n'a pas fait de victime, une enquête est en cours. Les images des caméras de surveillance montrent la présence de deux individus. Pour Johanna Roland, maire de Nantes, il s'agit clairement d'un acte de malveillance, un acte incompréhensible pour Olivier Château, adjoint du quartier de Nantes Sud.
Les habitants sont très choqués de voir leur mairie dégradée comme elle l'est aujourd'hui après l'explosion de cette nuit. Pour nous, ça n'a pas de sens, il n'y a pas de revendication, il n'y a rien. C'est un acte de violence gratuite et de dégradation d'un service public, de la mairie de quartier. C'est un symbole fort, donc ça suppose aussi des réactions à la hauteur de ce qui s'est passé cette nuit.
Cette mairie annexe de Nantes espère rouvrir ses portes d'ici jeudi. Nantes, Ronan Coquelin, Europe 1.
Allez, on termine ce journal avec quelques notes de musique. Une chanson à la destinée très particulière.
Oui, c'est une chanson de Mariah Carey qui se retrouve en tête des ventes aux États-Unis. Sauf que cette chanson est sortie il y a un quart de siècle, pas moins. Elle parle de Noël cette saison.
Bah oui. I don't want a lot
Assez rythmé. Ah ouais. All I Want for Christmas is You, c'est le titre. Alors les réseaux sociaux ont fait le boulot, hein. Ils ont aidé à catapulter la chanson en tête des ventes. Il faut dire que Mariah Carey fait actuellement une tournée aux États-Unis, ça tombe bien.
Une sorte d'hymne quand même, hein, ce morceau. Merci beaucoup Florence Cohen, on vous retrouve tout à l'heure dans moins de 30 minutes, la météo avec Anissa. Ouais, ça swing. Même en régie.
N'adaptez plus vos pneus aux conditions climatiques, ce sont vos pneus 4 saisons Hankook qui s'adaptent à la route. Hankook vous présente la météo.
On peut faire la météo sur Mariah Carey.
On aurait bien voulu, Anissa, quand même.
On peut faire la météo sur Mariah
Carey. Mais pas de flocons en vue, hein, pour autant. De la pluie, de la pluie, de la pluie.
Exactement, en effet, Nathalie. Ah, merci. Ouais. De la pluie sur l'Est, en Alsace, en Bourgogne-Rhône-Alpes, Auvergne, sur l'Hérault et le Gard. Demain, votre journée va commencer sur la pluie, mais bonne nouvelle. Au fil des heures, cette pluie va s'évacuer et le temps redeviendra sec. Partout ailleurs, le ciel est nuageux, avec sur la pointe bretonne une nouvelle perturbation qui arrive, avec donc demain après-midi des pluies assez importantes. Sur la Corse, les averses de la journée pourront prendre un caractère orageux. Le long de l'Atlantique et en bord de Manche, attention, le vent souffle fort en rafale jusqu'à 90 km/h. Les températures, on est loin du Noël de Mariah Carey, hein. On est 4 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. 3 à 13 le matin, 3 à Rennes, 6 à Paris, Limoges et Belfort. Et jusqu'à 13 degrés demain matin à Montpellier.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec votre invitée.
Oui, des syndicats qui ont montré les muscles cet après-midi, notamment à Paris. On attend les chiffres officiels de cette nouvelle mobilisation, 3e édition. Hein. Un bras de fer avant de rencontrer demain et après-demain le Premier ministre Édouard Philippe. Il sort de la manifestation parisienne. C'est Yves Verrier, le patron de Force Ouvrière, mon invité dans 2 minutes sur Europe 1.
Et votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, c'était aujourd'hui la 3e journée nationale de grève et de manifestation contre la réforme des retraites, alors que tous les syndicats sont invités dès demain à Matignon pour tenter de trouver une sortie de crise. Vous recevez ce soir Nathalie Lévy, le secrétaire général de Force Ouvrière, Yves Verrier.
Bonsoir Yves Verrier.
Bonsoir.
Merci de nous répondre en direct sur Europe 1, 3e journée donc de mobilisation nationale. Vous êtes galvanisé par ces rangs serrés, vous avez les chiffres là ce soir ?
Bah, je n'ai pas encore toutes les remontées précises, on en a quand même pas mal. Ce que je peux vous dire, c'est que globalement, ce qui nous remonte, c'est d'une part des manifestants dans un nombre équivalent à ce qu'était le 5 décembre, sinon plus, quelques endroits où c'était un petit peu moins, mais surtout également beaucoup de manifestants qui viennent aussi du secteur privé, ce qui montre que nous avons fait comprendre que le message, c'était pas la question des régimes spéciaux, mais bien le régime général de l'ensemble des salariés qui est en cause et les droits à la retraite demain de
Alors,
toutes et tous.
Quelques chiffres officiels viennent de nous parvenir. On est effectivement au-dessus du rassemblement du 10 décembre, hein, la semaine dernière, mais en deçà du 5, de la première mobilisation, c'est pas la marée noire attendue.
Oui, enfin moi je demande à vérifier les chiffres de la préfecture de police. J'ai l'impression qu'elle joue un peu au chat et la souris sur les chiffres parce que j'aimerais qu'on m'explique quand même comment le 5 décembre on mobilise au niveau auquel nous sommes parvenus. Et depuis, alors que le gouvernement durcit sa position, ajoute le H-pivot, accélère son calendrier et nous dit que dès le mois de janvier il y aura un projet de loi, que la première mesure qui s'appliquera justement ça sera le malus sur l'âge de départ à la retraite et qu'il y aurait moins de mobilisés 13 jours après le 5 décembre.
Ouais.
Je
alors
crois
ça veut
qu'il y a
dire
un
quoi
petit jeu là-dessus.
Ça veut dire quoi, Yves Verrier ? Ça veut dire que fort de cette nouvelle mobilisation, vous nous dites que la reculade de l'exécutif n'est pas loin ? C'est ce que vous allez dire demain à Édouard Philippe ?
Ben, je vais dire à nouveau à Édouard Philippe qu'il faut qu'il revienne à la raison. Son projet, il n'arrive pas à convaincre, il n'arrive pas à expliquer. Tout le monde comprend et tout le monde, et tous les syndicats d'ailleurs, sont maintenant opposés. Donc il faut qu'ils comprennent que ça ne le fait pas, que ça ne va pas. Il faut, puisqu'on nous avait dit
dialogue
social, acte 2, qu'on entende enfin.
Bon, ça le fait pas, mais le problème c'est que ça le fait pas, ça va pas faire avancer le schmilblick, Yves Verrier. Et il y a les fêtes de Noël et du 31 qui arrivent. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on propose quand on en est là ? On est dans le jusqu'au boutisme pour coincer encore les Français ou on propose les choses et on essaye d'en discuter ?
Qui est dans le jusqu'au boutisme ? Moi, j'entends ce matin, semble-t-il, le Premier ministre qui réaffirme sa détermination intacte.
Cet après-midi devant les députés.
Il nous invite à le rencontrer demain. Mais alors, où est le dialogue dans cette affaire? Où est le jusqu'au boutisme? Il a ajouté l'âge pivot. Il savait depuis le mois de mars, FO avait alerté, quand le haut commissaire à l'époque, M. Delevoye, avait parlé d'un bonus, que le bonus allait vite se transformer en malus.
Mais il dit aussi que cet âge pivot, c'est presque un dispositif par défaut, que tout est négociable. Qu'est-ce que vous proposez,
bon,
vous, alors?
Mais dans le même temps, il nous dit, moi j'ai proposé qu'on prenne une des suggestions du Conseil d'orientation des retraites, augmenter les cotisations de 1%, rétablir l'équilibre par rapport à ce qui pourrait être anticipé d'ici 2030. Que nous dit le Premier ministre ou le gouvernement? Pas question.
Oui, mais regardez bien la situation. Ça veut dire quoi? Augmentation des cotisations entre employeurs et salariés, mais ça veut dire aussi moins de pouvoir d'achat pour les salariés.
Mais ça peut être de la cotisation entreprise, c'est la part de salaire qu'on redistribue à la cotisation sociale. C'est exactement ce qui va disparaître avec le régime unique par point du gouvernement, mais surtout le caractère unique du régime, ça sera sous tutelle de l'État. Et chaque année, on vivra exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Dès que les syndicats diront il faut augmenter, par exemple, les cotisations parce qu'on veut préserver notre droit à partir à 62 ans à la retraite avec une retraite complète, correcte, qui permette de vivre correctement, eh bien, vous aurez les employeurs qui monteront tout de suite au créneau auprès du gouvernement disant attention, attention, risque pour l'emploi. Et chaque fois, c'est la même réponse. Vous savez, ce même jour, on apprend que le gouvernement refuse d'augmenter le SMIC au-delà de l'augmentation réglementaire. Toujours la même raison, ça détruirait de l'emploi. Et dans le même temps, il nous dit on n'augmentera pas les cotisations parce que ça détruirait de l'emploi.
Parce que ça tuerait l'économie, dit-on. Notamment Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Yves Verrier, si le gouvernement renonce demain ou jeudi dans cette réunion multilatérale à l'âge pivot? Est-ce que vous êtes prêt à faire la trêve?
Mais j'attends de voir d'abord qu'il renonce à l'âge pivot.
Et mais l'âge pivot, s'il renonce à l'âge pivot, là vous pouvez dire...
Je viens d'expliquer à l'instant que le problème, c'est que la question de l'âge auquel vous pourrez partir à la retraite dépend étroitement du niveau de la pension qui est le vôtre quand vous avez 62 ans. J'avais expliqué qu'avec le régime unique par points, ça deviendrait virtuel parce que le gouvernement pourrait jouer aisément sur les paramètres du pilotage financier du système. Et le Premier ministre l'a bien rappelé d'ailleurs dans son dernière intervention publique au CESE, quand il parle de la gouvernance et de la place des partenaires sociaux, à chaque fois il ajoute sous contrôle ou sous supervision du Parlement.
Donc
on aura chaque année cette discussion.
Yves Verrier, le problème c'est que vous vous renvoyez la balle entre le gouvernement, entre les syndicats. On se renvoie la patate chaude, c'est à celui qui va lâcher en premier. Sauf que là, il y a Noël. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'une trêve de Noël est envisageable à ce stade, oui ou non?
Le gouvernement, me semble-t-il, a annoncé ce matin que toutes celles et ceux qui avaient acheté un billet de train pour le week-end se verraient assurer un train. Bon.
Ça veut dire
donc,
quoi?
Ça veut dire que pour le gouvernement,
l'opinion...
Si j'entends le gouvernement, la question, elle ne se pose pas exactement dans les mêmes termes.
Mais ça sert le gouvernement, Yves Verrier.
C'est très simple. Le gouvernement, il peut appuyer sur le bouton stop, éventuellement sur le bouton pause sur son projet de réforme des retraites. Il n'arrive pas à convaincre, il n'arrive pas à expliquer. Les salariés étaient très largement mobilisés encore aujourd'hui, je le dis, dans tous les secteurs d'activité. Donc à un moment donné, quand on nous parle de acte 2, d'écoute et de dialogue, j'aimerais bien quand même que ça finisse par se traduire. Et
Verrier,
ça peut se traduire par
si
on appuie sur le bouton stop, on regarde comment on peut faire autrement.
On a vu cette unité de façade aujourd'hui dans les cortèges. On a vu d'ailleurs que Laurent Berger pour la CFDT n'était pas resté longtemps dans la manifestation. Si le top, comme on dit Laurent Berger demain, sur l'âge pivot, l'âge d'équilibre à 64 ans, ça va être plus compliqué pour vous?
Écoutez, si le top, comme vous dites, je n'en sais rien, on verra. Je pense que Laurent Berger, il a vécu, tout comme les autres organisations syndicales, très mal l'épisode de l'assurance chômage. Mmh. On était dans cette configuration. Le gouvernement nous dit, voilà, vous, les partenaires sociaux, on vous demande, on vous fait une lettre de cadrage, vous négociez 3 milliards d'économies sur les droits des demandeurs d'emploi. On a dit non.
D'accord, mais si demain, demain ou jeudi, dans la réunion multilatérale, Laurent Berger signe avec Édouard Philippe, le front syndical est défait. Vous serez obligé de renoncer.
Écoutez, il y a une semaine de cela, on nous opposait le fait que seuls certains syndicats appelaient à mobiliser contre le projet. Aujourd'hui, tous les syndicats appelaient à mobiliser contre le projet.
Il va y revenir en janvier dans les rues. Est-ce que cela est imaginable? Revenir en janvier dans les rues, c'est imaginable, oui ou non?
Bah écoutez, nous, on n'a pas du tout l'intention d'abandonner. Encore une fois, on a contraint le gouvernement à reculer la mise en œuvre du régime universel à la génération 75. Encore une fois, moi, je ne m'en satisfais pas parce que c'est vrai que les jeunes qui sont nés en 76, 77, bah, ils se trouvent un peu de côté. Ils ont raison. Mais bon, d'une part et d'autre part...
Vous ne m'avez pas dit, vous ne m'avez pas répondu. Revenir en janvier, oui ou non, d'un mot ?
Oui, moi, je ne vais pas lâcher. Merci. On vous entend.
Merci beaucoup Yves Verrier, Force ouvrière, d'avoir répondu ce soir à nos questions. À la fin donc de ce cortège, on commence à avoir des chiffres officiels. On vous les livre dans une seconde.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec la suite du programme, Nathalie.
Bah, la suite, c'est les grandes voix. Regardez, ils sont là. Enfin, vous pouvez pas le voir, mais presque les entendre. Charles Villeneuve, Gérard Carrérou. On est bien pratiquement au complet. Non, je vous rassure, on va être au complet dans une seconde. Et Florence Cohen est installée pour le rappel des titres.
Vous pouvez nous suivre en vidéo si vous voulez voir les grandes voix. C'est sur Europe1.fr que ça se passe. Et pour les interpeller, c'est au 39-21, le standard d'Europe 1. Votre grand journal du soir jusqu'à 20h. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Votre rappel des titres, Florence Cohen.
615 000 manifestants, dont 76 000 à Paris contre la réforme des retraites, chiffre du ministère de l'Intérieur. Le cabinet indépendant Occurrence, dont Europe 1 est partenaire, a compté 72 500 personnes. Édouard Philippe se dit déterminé à mener à bien sa réforme. Il recevra les syndicats un par un demain. Trafic toujours perturbé demain à la SNCF. Un Transilien sur 4, 4 TER sur 10, un Intercité sur 6, 8 lignes du métro parisien fermé. Aspirine, Doliprane et Advil ne seront plus en vente libre chez le pharmacien à partir du 15 janvier. Ils seront rangés derrière le comptoir pour éviter l'automédication abusive. Début des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue de football, Reims-Montpellier dans un quart d'heure et Monaco-Lille à 21h. À suivre en direct sur Europe 1.
Merci Florence Cohen, l'info revient avec vous dans 30 minutes. Anissa de département en vigilance orange.
Oui, on reste prudent et très attentif en Charente et dans les Landes où ces deux départements sont toujours placés en vigilance orange crue et inondation. Alors ça concerne l'Adour dans les Landes et la Charente en aval, voilà, qui risque de déborder et qui ont bien dépassé les limites fixées. Alors attention, demain encore beaucoup de vent en Corse du Sud, sur la Côte d'Azur, le long de la Méditerranée et sur le Languedoc. Le vent d'Est et le vent d'Autant soufflent demain jusqu'à 70 km/h. Le long de l'Atlantique et sur les côtes de la Manche, là c'est le vent du Sud qui lui aussi est assez fort demain, avec même sur la pointe bretonne des rafales qui pourront atteindre les 90 km/h. Dans le Gard, l'Hérault, la vallée du Rhône, l'Auvergne, Nivernais, la Bourgogne et l'Alsace. Votre journée va débuter sous la pluie demain, mais des pluies qui vont s'atténuer et même s'arrêter dans l'après-midi. Les températures très douces, bien au-dessus des moyennes de saison, 3 à 13 degrés. Demain matin, 6 pour Paris.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec jusqu'à 19h, le débat des grandes voix.
Les grandes voix qui vont se poser sur ces chiffres. 615 000 manifestants dans toute la France, 72 500 à Paris, selon les chiffres de notre partenaire Occurrence. Qu'est-ce que cela vous inspire ? On vous écoute, les grandes voix, dans une seconde. Bonsoir à vous.
Et vous pouvez les interpeller. N'hésitez pas à poser toutes vos questions aux grandes voix. C'est au 39-21 que ça se passe, le standard d'Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy autour de vous. Les grandes voix qui débattent jusqu'à 19h ce soir. Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Bienvenue à tous dans ce studio. Bonsoir.
Bonsoir.
Les grandes voix. Charles Villeneuve, vous avez compté comme nous, ou presque, enfin en tout cas comme Occurrence, vous avez vu cette troisième mobilisation interprofessionnelle des syndicats contre cette réforme des retraites. Vous en dites quoi?
Ben,
à la veille de ce rendez-vous avec Edouard Philippe.
À Paris, c'est plus, si vous voulez, que précédemment, selon les chiffres d'Occurrence.
Et sur la France entière,
c'est moins que finalement les 800 000 que le ministère de l'Intérieur avait compté. C'est-à-dire, moi, en gros, j'en tire que les lignes de force n'ont pas tellement bougé. Le front syndical ne s'est pas fissuré, même si la CFDT a joué sa partition, qui n'est pas celle de la CGT et de Force ouvrière. Et quant au gouvernement, moi je pense qu'il restera comme il l'est ce soir, stoïque, et le Premier ministre ne lâchera, à mon avis, pratiquement rien jusqu'à au moins demain midi, quand en bilatérale, il recevra notamment le chef de la CFDT, Laurent Berger, avec qui, dont on dit qu'il a la clé, j'en suis pas si sûr, on débattra de ça, justement. J'en suis pas si sûr aujourd'hui, justement ce soir, notamment. Et je verrai comment Gérard Carrérou
va nous dire que la traduction de cette troisième mobilisation. Alors, c'est vrai que les images étaient impressionnantes tout au long de la journée.
Oui,
on a vu les rangs serrés.
Les images étaient impressionnantes. Mais vous savez, les chiffres, c'est quand même les chiffres qu'il faut regarder de près. Et à partir du moment... c'était l'acte 3, c'était la troisième grande manifestation. Absolument. La dernière de 2019, disons, la dernière avant les fêtes de fin d'année.
Et on était dans la troisième semaine.
On était en troisième semaine. Moi, je dirais ce soir qu'effectivement, ils ont rassemblé du monde, mais le match n'est pas plié. Si, effectivement, les syndicats avaient pensé qu'ils atteindraient le million, et avec l'appui des petits bataillons de la CFDT, parce que je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait des gros bataillons, mais ce n'était pas ceux de la CFDT. Mais en tout cas, ils n'ont pas atteint le chiffre miracle. Ils sont à 615 000. Donc je pense que ce qui va continuer, c'est les négos demain après-demain, mais c'est la guerre de tranchées, maintenant. C'est la guerre de tranchées, c'est-à-dire que ce n'est pas le match décisif. On pouvait penser que ça va être l'instant décisif. Eh ben non, ce n'est pas l'instant décisif. Il faudra d'autres instants.
Et la bataille des chiffres, je précise quand même à nos auditeurs, 1,8 million annonce la CGT sur toute la France, et on a donné le chiffre de l'intérieur, 615 000 pour cette troisième édition de mobilisation. Emmanuel Dutheil, demain, après-demain, parce qu'on a entendu Édouard Philippe face aux députés cet après-midi redire sa détermination totale quant à la nécessité de cette réforme. Effectivement, le match demain, avec argument contre argument. Mais il n'y a pas un chaos d'emblée.
Oui, je suis assez d'accord avec ce que disait Gérard. Là, on est sur une forme de guerre de tranchées puisque le match, effectivement, n'est pas plié. Je pense que quand même, du côté des syndicats, il y a une forme de déception. On a beau être dans la troisième semaine, ça a beau être la troisième manif. Bon, on est quand même assez nettement en dessous de la première. À noter quand même, je trouve un point extrêmement important. Je pense que ça fait bien longtemps en France qu'on n'a pas deux manifestations de cette ampleur à la suite qui se passent dans un calme relatif. Et mine de rien, c'est quand même un point rassurant, c'est-à-dire que sur un sujet aussi important que les retraites, les manifestations se sont bien passées, et y compris entre syndicats, puisqu'il y avait des petites peurs quand même qu'entre CGT et CFDT, ça s'invective. Ils se sont sûrement pas fait des petits bisous, mais ça s'est bien passé.
Ils ne se sont peut-être même pas croisés, puisque Laurent Berger est resté que 30 minutes.
Oui, mais alors attention, ça, j'entends beaucoup parler de ça. Ce serait illusoire de croire que les délégués syndicaux, les têtes de liste des syndicats fassent toute la marche, ça n'arrive quasiment jamais. Alors c'est vrai que 30 minutes, c'est pas très longtemps, mais ils font jamais très très longtemps.
Ils font trois mots devant les télés, derrière la banderole au départ, et c'est vrai que souvent, ils s'en vont assez rapidement.
Alors, faut-il y voir un signe ou pas? En tout cas, Laurent Berger, c'est peut-être l'homme de la situation demain, l'âge pivot, le renoncement, on verra si Édouard Philippe lâche là-dessus. On s'en dit un mot, plus encore, votre analyse dans un instant.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy, jusqu'à 19h. Vous êtes entourée des grandes voix, comme chaque jour, des grandes voix qui débattent autour de l'actualité. Ce soir, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Et nos auditeurs, à commencer par André qui nous appelle depuis l'Alsace. Bonsoir André.
Bonsoir Nathalie, bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Eh bien, moi j'ai simplement deux choses à dire. D'abord, ce système pivot de 64 ans, excusez-moi d'employer un terme un peu trivial, c'est une fisterie, parce que ça revient à placer l'âge minimum de retraite à 64 ans, sauf à la limite pour les gens qui ont commencé à travailler très 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 jeunes. Donc c'est absolument dégueulasse, il ne faut pas dire que l'âge est de 62, il faut dire clairement les choses. On le remonte à 64 et au moins les choses sont claires. C'est un premier problème. Et puis un deuxième problème, on vous balance ça comme ça parce que c'est un engagement du président de la République. Alors on peut dire il tient ses engagements, ça effectivement, a priori il tient ses engagements. Mais il y a tellement d'autres solutions qui n'ont pas été évoquées et dont on semble visiblement ne pas vouloir discuter, qui permettraient sans problème de trouver des fonds ailleurs, avec des solutions.
Alors justement, c'est intéressant. C'est intéressant ce que vous dites, André, parce qu'on va les évoquer, justement, ces possibilités, ces propositions qui sont faites, notamment par Laurent Berger de la CFDT. Merci beaucoup de votre appel, André. Laurent Berger de la CFDT, ou même Yves Verrier, que j'avais en ligne il y a quelques instants pour Force Ouvrière, il propose une augmentation des cotisations. Voilà.
Personne n'en veut.
Gérard Carrérou.
Alors, il n'y a pas 36 solutions, il y en a 3. effectivement celle que vous venez de mentionner, c'est-à-dire les cotisations. Personne ne s'engagera dans une augmentation des cotisations, alors que toute la partie de la politique du président de la République a été justement de baisser les cotisations, etc. Deuxièmement, baisser le niveau des retraites. Est-ce que vous imaginez que quelqu'un va proposer de baisser le niveau des retraites, alors que justement tout est fait pour dire il faut maintenir les retraites à leur niveau, etc. Donc, il ne reste que la troisième solution, c'est-à-dire effectivement un certain allongement, de la durée de cotisation. Mais en plus, il y a maintenant que c'est devenu un totem politique, les 64 ans. Si vous voulez, au départ, il y a d'autres solutions possibles. On peut concevoir, on peut rassembler des financements ici et là, on peut arriver. Mais en fait, pour Philippe, c'est lui qui défend ça, il l'a confirmé aujourd'hui à l'Assemblée. Il a dit qu'il irait
jusqu'au bout. Il a dit sa totale détermination.
Et c'est devenu son totem. Avec ça, il a avec lui, derrière lui, toute la droite. La droite déjà ralliée à Macron, et la droite qui n'est pas ralliée à Macron, mais qui pense comme lui.
Qu'il a interpellé d'ailleurs, évidemment, et il a eu raison de le faire cet après-midi à l'Assemblée. Charles Villeneuve, c'est vraiment un totem, les 64 ans. Emmanuel Dutheil, vous allez nous éclairer aussi dans un instant, ou c'est là-dessus qu'il peut lâcher, parce que de toute façon, c'est ce que lui demande Laurent Berger, qu'il faut le ramener.
Oui. Mais enfin, cette réforme, de toute façon, est coûteuse. Elle coûte cher. C'est quand même une usine à gaz extrêmement compliquée qui a été montée. Il est bien évident que, ne serait-ce que la réforme des régimes spéciaux, c'est techniquement une usine, je répète le mot, une usine à gaz absolument très difficile. En ce qui concerne les cotisations, si vous augmentez les cotisations, d'ailleurs, Darmanin a répondu à cette éventualité.
Sûrement pas.
Et puis avant-hier aussi sur Europe 1 aussi, de toute façon, l'idée est de faire supporter, si vous augmentez les cotisations, aux salariés, aux entreprises. Bon, il est bien évident qu'on n'arrivera pas sur cette solution. Mais moi, ce qui me paraît, si vous voulez, ce que cette crise a fait émerger, pour moi, l'homme clé ne me semble pas être Laurent Berger. L'homme clé me semble, et j'adhère à ce que vient de développer Gérard, c'est le Premier ministre. C'est aujourd'hui, et on le verra encore demain, le Premier ministre, je pense, restera sur son Aventin. C'est-à-dire qu'il ne franchira pas le Rubicon de céder, si vous voulez, sur le totem, justement, des 64 ans.
Et Emmanuel Dutheil, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qu'il peut lâcher, alors, Édouard Philippe ?
C'est-à-dire qu'il va sûrement falloir lâcher d'une manière ou d'une autre sur l'âge pivot. Mmh. En tout cas, il va falloir l'ouvrir fortement. Ils ont quand même une manière, c'est d'étirer fortement la mise en place.
Des délais, des délais.
Je pense que c'est extrêmement compliqué, cette réforme des retraites. Il faut savoir que l'âge pivot, ça entre avant. C'est complètement à côté de la réforme des retraites. Ça entre en vigueur dès 2022 pour atteindre l'équilibre en 2027.
Ils vont l'appeler autrement.
Ils peuvent l'appeler autrement que l'âge pivot. Ils peuvent faire une contourne. Ils peuvent contourner. C'est vrai que Laurent Berger a l'air d'être tellement
arc-bouté sur ses 64 ans,
comme vous dites, que ça paraît compliqué d'avancer sans négocier là-dessus. Après, il va falloir que les syndicats fassent un effort sur le retour à l'équilibre. On voit bien les interviews qui sont données ces derniers temps. On a quand même à Laurent Berger qui est un poil moins énervé. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire son interview à La Croix ce matin.
Oui.
Bon, il dit que ce n'est pas un totem de parler d'équilibre, qu'on peut trouver.
Donc
sur ce plan-là, Édouard Philippe a quand même finalement réussi.
C'est pas un gros mot de parler d'équilibre financier.
Mais, donc ça veut bien dire qu'il y a une volonté commune. Et qu'a priori, Édouard Philippe n'est pas trop non plus inflexible, Laurent Berger n'est pas trop inflexible. Puis il faut voir qu'il y a un autre syndicat à côté de la CFDT qui commence à les titiller fortement, c'est l'UNSA, qui est un syndicat qui négocie très très bien en ce moment cette crise des retraites, puisqu'ils sont aussi bien très offensifs à la RATP, à la SNCF, et en même temps n'abandonnent jamais la table des négociations. Donc la CFDT est bien obligée de se dire « Waouh, lui il est prêt à négocier, donc il faut faire un petit truc ».
On se parle dans un instant, Charles Villeneuve ?
Oui.
Juste après cela.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe. La suite de votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy jusqu'à 19h, c'est le débat des grandes voix. Ce soir, autour de la table, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
On zoomait juste avant cette petite hôte de Noël, mais bien chargée, messieurs, sur l'homme clé a priori, sur le papier jusqu'ici, Laurent Berger de la CFDT, pour peut-être dénouer cette crise. Mais effectivement, il y a un autre acteur, l'UNSA, Laurent Escure, qu'on entend aussi beaucoup et qui a un discours toujours avec une forme de modération, de précision et qui peut-être, Charles Villeneuve, devenir l'acteur clé.
Alors c'est un point sur lequel moi je voudrais insister, évoqué par Emmanuel Dutheil à l'instant, l'UNSA, parce que, pour une raison simple, c'est un syndicat qui pèse parce que c'est le premier syndicat à la RATP. C'est le deuxième syndicat à la SNCF et dans l'éducation nationale. L'UNSA réclame aussi la suppression de l'âge pivot et l'application de la clause du grand-père dans les régimes spéciaux. Mais la CFDT aussi pèse, en ce sens où elle pèse 20% des conducteurs de train. Or, 70% des conducteurs de train, c'est la catégorie la plus mobilisée dans la grève, justement, de la SNCF. La CFDT a son rôle à jouer sur ce plan-là aussi.
Alors, voilà.
Je voudrais dire juste un mot sur Berger. Parce qu'effectivement, on a trop facilement présenté Berger comme le faiseur de la réforme, grâce à qui, dès lors qu'il basculait du côté de Macron-Philippe, la réforme se faisait, etc. Moi, je crois qu'il est plus fragile, il est beaucoup plus fragile dans cette affaire, parce que, de deux choses l'une, imaginons par exemple demain, s'il top, comme on dit, s'il fait un accord avec Philippe, est-ce qu'il y a vraiment intérêt ? Il y aurait intérêt si Philippe disait « je retire totalement les 64 ans ».
Mais comme il va avoir une énorme compensation, il va enfin avoir une pénibilité prise en compte dans le calcul de la retraite, qui est un combat mais qui date depuis des années du côté de la CFDT. Donc pour ses troupes, il va quand même... Lui, non, c'est pas comme un Philippe Martinez qui va tout perdre ou tout
mais
gagner.
Mais je le nuancerai quand même, d'accord, c'est très important pour lui, mais c'est vraiment, aux yeux de l'opinion, c'est où il obtient la tête, si j'ose dire, des 64 ans, où il ne l'obtient pas.
Ça, c'est enfin, sûr.
Mais or, Philippe, justement, lui n'a aucun intérêt à lui donner la tête, si j'ose dire. Il peut lui donner des aménagements, mais il ne peut pas lui donner le dire « je retire ».
Oui, ça, c'est vrai.
« Je retire les 64 ans ». Donc, je pense que Berger, je redis, n'est pas l'homme absolument déterminant dans cette affaire.
Mais faudra-t-il encore qu'il pèse sur sa base ?
Aussi.
Est-ce qu'elle va le suivre ?
Exactement. Alors, du coup, ce qui est intéressant, peut-être, est ce que Mickaël Darmon disait tout à l'heure dans le journal de 18h, c'est que ces discussions qui vont s'ouvrir demain, c'est d'abord en bilatéral, ensuite plénière en jeudi. Ce qui est intéressant, c'est qu'en bilatéral, ils vont pouvoir, chaque partenaire, chaque syndicat, dire et mettre sur la table leurs exigences.
Et puis là, attention, on n'est pas dans du jeu, dans ces bilatérales. Là, c'est fini, les rendez-vous pour faire plaisir, voilà. On se fait bisous. Et là, véritablement, demain, ça va être pour travailler. C'est-à-dire qu'ils ont eu vraiment du temps. Les syndicats ont énormément travaillé, les syndicats réformistes, ces derniers jours, pour regarder ce qui est possible. Donc là, ils vont confronter projet contre projet et ils vont voir où le compromis est possible. Ce qui est très, très, très dangereux, c'est si demain soir ou jeudi, il n'y a pas l'esquisse d'un compromis qui arrive. Là, la guerre de tranchées que décrivait très bien Gérard, elle est un peu imprévue et l'issue est
plus qu'un
peu imprévue. Mais le bilatéral aussi, Emmanuel, permet au Premier ministre de savoir jusqu'où il peut aller.
Ah bah bien sûr.
Là, tout est mis sur la table et effectivement, on a toutes les données sans faux semblant.
En tout cas, on va enjamber Noël jour de l'an. Tant mieux, probablement avec quelques trains quand même.
En tout cas, c'est là-dessus que le gouvernement communique.
Mais ça ne veut pas dire qu'on ne retrouvera pas cette affaire en janvier.
Mais moi, ça ne m'étonnerait pas qu'Edouard Philippe soit content d'un début de guerre des tranchées, avec notamment ce qui se passe à la SNCF, puisqu'on va voir les sondages qui vont sortir. Mais Edouard Philippe joue très clairement l'opinion. C'était très clair dans son discours au Conseil économique et social.
Bien sûr.
À chaque fois, il parle à l'opinion.
Et comme il y aura des trains, l'opinion... Il y aura suffisamment de trains.
Il y a un train sur deux et bon courage.
Mais il communique là-dessus. Vous avez vu comment ça se passe. Il communique là-dessus pour rassurer, évidemment.
Mais pour Fermine, regardez, on est trop fort.
Un train sur deux, ça calmera le jeu.
Ça peut calmer le jeu et ça permet d'avoir l'opinion.
Même virtuelle, la guerre de tranchées fait des dégâts.
Ça, c'est sûr. Mais elle peut en faire à la CFDT aussi. Oui. C'est déjà arrivé dans le passé. Il faut qu'il fasse attention aussi à ça. Il a un électorat, si j'ose dire. Surtout qu'il y a des élections syndicales bientôt.
Mais vous savez, il s'appuie sur une enquête interne qu'ils avaient faite sur les retraites qui montrait que la population de la CFDT était très ouverte à une forme de réforme. Donc il estime qu'il a un mandat parce qu'il a fait une enquête, mais très poussée, vraiment un travail qui avait été rendu public, très puissant. Et donc il estime qu'il a un mandat et qu'il sait qu'il peut emmener ses troupes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelques troupes d'ici de là qui ne se sentent plus bien et qui partent.
Et puis la grève aura coloré quand même le paysage global.
Et surtout, elle aura fait apparaître un émergent puissant, typique d'ailleurs de l'articulation de la Ve République, le Premier ministre.
Parce que vous aurez remarqué sans doute qu'on avait beaucoup vu Emmanuel Macron durant la crise des Gilets jaunes.
Ah ben là, il laisse effectivement.
Là, il laisse Edouard Philippe en première ligne, il laisse son atout majeur.
C'est lui qui mène le jeu.
Sauf qu'Emmanuel Macron s'exprimera le 31 décembre.
Mais, on verra ce qu'il dit. C'est vrai, mais c'est le gilet pare-balles.
C'est le gilet pare-balles. C'est pas le gilet jaune, c'est le gilet pare-balles. Exactement. Merci Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Emmanuel Dutheil, c'était les grandes voix. Europe 1.
suivre, Nathalie Lévy, dans votre grand journal du soir.
Un nouveau journal complet, celui de Florence Cohen, avec tous les chiffres officiels de cette troisième mobilisation. Vous les avez entendus débattre, les grandes voix. 1,8 million annoncés par la CGT sur toute la France. 615 000 annoncés, en revanche, par la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur.
Et vous écoutez Europe 1, c'est votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite du programme, Nathalie Lévy.
Je vous dis tout. 19h10, l'invité politique Yann Brossat dans ce studio, adjoint à PCF au logement, à la mairie de Paris, invité d'Aurélie Herbemont. 19h20, demain en France, dans le monde et dans vos vies aussi. Vous aimez ce rendez-vous, nous aussi. 19h30, tous les soirs cette semaine sur Europe 1. C'est un humoriste qui s'installe dans ce studio. Stéphane Guillon, demain Stéphane de Groot. Jeudi, pas que des Stéphane, je vous assure. Haroun ce soir, Anissa, vous aimez?
Non, on est
moi aussi,
moi,
je découvre et j'adore. C'est dans une demi-heure et on vous attend vous aussi au 3921.
La neige est arrivée avec les pneus hiver Hankook aux performances optimales. Partez au ski en toute sécurité. Hankook vous présente la météo des neiges.
Alors, pas de flocons sur Paris, mais...
Non. Alors, on va faire relief par relief. Il n'y a pas franchement de flocons. Les températures sont quand même très, très douces en ce moment. Alors, sur les Alpes du Nord, sur Isola 2000, la station Isola 2000, demain, vous aurez des éclaircies avec des températures positives. 8 degrés demain après-midi, Isola 2000. Et de la neige à partir de 2000 mètres. Dans les Vosges, à Gérardmer, quelques gouttes demain après-midi. 11 degrés. C'est quand même très, très doux pour la saison dans les stations. Un tout petit peu de neige au sommet. Dans le Massif central, au Lioran, quelques rayons de soleil demain après-midi et de la neige sur les sommets. C'est vrai qu'il a pas mal neigé ces dernières semaines et cette neige pour l'instant elle tient. Sur les Pyrénées à Font-Romeu, demain c'est une journée assez ensoleillée et 7 degrés. Dans les Alpes du Sud, à Serre-Chevalier, le temps sera gris demain. Pas de chute de neige à basse altitude, mais à partir de 1800 mètres vous aurez quelques flocons. Dans l'ensemble, voilà, les stations sont plutôt bien enneigées, mais on a quand même un temps très doux, bon. Ce qui accentue le risque d'avalanche, donc il faut être très très prudent.
Merci Anissa.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Florence Cohen et Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Il y a un monde de fous aujourd'hui. On est toujours bien reçus. On bloque tout le monde, on emmerde tout le monde et on est bien reçus. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que tout le monde est ensemble.
Tout le monde, ça veut dire 72 500 personnes à Paris, selon le cabinet indépendant Occurrence, dont Europe 1 est partenaire. Les syndicats revendiquent évidemment beaucoup plus.
Les personnels hospitaliers ont manifesté aujourd'hui pour réclamer plus de moyens et d'effectifs.
Édouard Philippe reste déterminé à mener à bien sa réforme des retraites. La maire de Paris, Anne Hidalgo, tacle de son côté le gouvernement.
Doliprane, aspirine, Advil, vous ne les trouverez plus en libre-service chez le pharmacien. Mesure contre l'automédication.
La météo,
c'est vous Anissa.
Alors la météo pour demain, c'est de la pluie dans le sud-est et en Bretagne, sur les extrémités. Partout ailleurs, c'est un temps assez nuageux. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Florence Cohen.
Voici les premiers chiffres après les manifestations contre la réforme des retraites. 615 000 participants dans toute la France, dont 76 000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. Le cabinet indépendant Occurrence, dont Europe 1 est partenaire, a compté 72 500 personnes dans la capitale. La CGT revendique 1 800 000 personnes sur tout le territoire. Des défilés donc également en province, 20 000 personnes à Marseille, 14 000 à Nantes, 11 000 à Lille, 10 000 à Rennes. Dans la mobilisation aussi, les enseignants, les fonctionnaires, les avocats, les magistrats, mais aussi les personnels de l'hôpital. Ils ont manifesté contre la réforme, mais aussi, comme le mois dernier, pour réclamer plus de moyens et plus d'effectifs. Et là, ils sont très agacés.
On ne nous entend clairement pas. Il faut ouvrir des lits d'aval pour pouvoir transférer les patients et accueillir les nouveaux patients qui arrivent aux urgences ou dans les soins critiques. Il faut rendre attractif l'hôpital pour que les soignants restent à l'hôpital et partent pas dans le privé. Sinon, dans quelques années, l'hôpital public se fait racheter par le privé et la santé publique et les soins pour tous, c'est fini.
Des propos recueillis par Jean-Jacques Herry pour Europe 1. Le trafic sera encore très perturbé demain dans les transports en commun pour la 14e journée consécutive. Légère amélioration tout de même, dit la SNCF, avec un Transilien sur 4, 4 TER sur 10, mais un train intercité sur 6. À la RATP, 8 lignes de métro resteront fermées.
La SNCF qui promet d'acheminer le week-end prochain tous les voyageurs munis d'un billet TGV. Pour les autres, c'est beaucoup plus aléatoire.
Et oui, c'est là que c'est compliqué. On l'a vu d'ailleurs avec votre invité Yves Verrier, Nathalie, à 18h10 sur Europe 1. Le leader de Force Ouvrière appelle Édouard Philippe à la raison et il se dit prêt à ne rien lâcher
y compris au mois de janvier, c'est-à-dire après les fêtes. Édouard Philippe, qui se dit déterminé à mener à bien sa réforme, il est aussi raisonnablement optimiste, dit-il, avant de recevoir les syndicats un par un demain. Quant à la maire de Paris, Anne Hidalgo, elle a fait une petite mise au point à destination du gouvernement cet après-midi. Non, la mairie de Paris ne se montre pas dilettante devant l'organisation des manifestations.
Ce type de critique doit d'abord être regardé du point de vue de ceux qui ont généré cette situation et qui doivent d'abord régler la situation. On ne peut pas sortir d'un conflit social de cette ampleur uniquement en essayant de renvoyer la faute sur les maires et la maire de Paris. Il faut sortir de ce conflit le plus vite possible, le mieux possible, et je n'ai jamais vu de sortie de conflit en dehors d'un temps de négociation et de concertation réelle avec l'ensemble des protagonistes et au premier chef, évidemment, les organisations syndicales qui représentent les actifs et les non-actifs de ce pays.
Anne Hidalgo, au micro de Victor Dolande. On est dans la manifestation Place de la Nation pour Europe 1 à Paris. Un cortège très dense, on l'a vu, une manifestation qui s'achève sans heure, Romane Hoquet.
Oui, il y a déjà beaucoup de monde, Place de la Nation, et quelques fumigènes aussi. Plusieurs dizaines de CRS sont quand même postés pour de potentiels débordements. Alors il faudra encore du temps pour que tous les manifestants arrivent jusqu'ici, car ce qu'on retient de cet après-midi, c'est avant tout le monde rassemblé. Un constat partagé par Mathieu, conducteur SNCF.
Il y a un monde de fous aujourd'hui. Je m'y attendais à ça, je vous le dis, nous sur le terrain, on fait des interpros avec des profs, on a étalé un peu partout. On est toujours bien reçus, on bloque tout le monde, on emmerde tout le monde. Et on est bien reçu. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que tout le monde est ensemble.
En effet, beaucoup de métiers représentés, les finances publiques, les douaniers, professionnels de santé et aussi les enseignants qui veulent maintenir la pression. Cécile et Marie veulent des réponses du ministre.
Qu'il se positionne, Jean-Michel Blanquer. Voilà. Stop, ça suffit. On ne peut pas tout demander à l'école.
Depuis un certain moment, qu'il nous explique ce qu'il envisage de faire avec les enseignants. C'est pas possible, en fait. On ne signe pas un contrat les yeux fermés.
Une manifestation aussi particulière dans la répartition des syndicats, les plus radicaux qui demandent le retrait de la réforme à l'avant et les réformistes à l'arrière. Sylvie, syndiquée FO, espère bien les faire changer d'avis.
Je pense qu'en discutant, on peut convaincre des réformistes. Oui. Et donc pour avoir une unité, c'est pas forcément tenir compte de ce qui est dit par les grands chefs syndicaux, mais l'unité se fait à la base.
Des rêves d'union pour parler d'une même voix et peut-être faire les mêmes concessions. En tout cas, refuser quoi qu'il arrive la retraite à 64 ans.
Merci Romane Hoquet, en direct pour Europe 1, en direct de la Place de la Nation, à la fin de la manifestation à Paris.
Si vous avez besoin d'acheter de l'aspirine, du Doliprane ou de l'Advil, vous ne pourrez plus les trouver en accès libre à la pharmacie à partir du 15 janvier. Prenez note, c'est pour éviter l'automédication abusive. Bonsoir Pauline Jacquot.
Bonsoir.
C'est effectivement pour limiter l'un.
C'est exactement, car ce sont des médicaments très utilisés. Il faut donc limiter cette consommation, avoir l'avis du pharmacien. Ces médicaments restent sans ordonnance, mais les boîtes seront rangées derrière les comptoirs. Ce sont les médicaments à base de paracétamol et d'ibuprofène. Fini donc l'automédication, les comprimés que l'on prend, vous savez, un petit peu pour un oui ou pour un non, en cas de douleur ou de fièvre.
Mais oui, parce que Pauline, ces médicaments, ils ne sont pas anodins du tout. Ils peuvent même être dangereux.
Ils peuvent être dangereux, effectivement, en surdosage. Le paracétamol provoque des lésions du foie. Alors, pour un adulte, on le rappelle, il ne faut jamais dépasser 3 grammes par 24 heures et jamais plus d'un gramme par prise, en espaçant bien de 6 heures à chaque fois. Les anti-inflammatoires, Nurofen ou Advil, par exemple, peuvent être toxiques pour le fœtus, mauvais pour les reins également, provoquer des infections aussi. Depuis l'an 2000, les agences sanitaires ont recensé 337 cas de complications infectieuses, dont 32 décès.
Merci. J'en connais qui vont faire des stocks à l'avance. Hein.
On va faire ça.
Non, mais sérieusement. On poursuit,
Florence ? On poursuit avec le parquet de Lille qui a ouvert une enquête pour violence avec armes sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Ça, c'était après le jet d'un cocktail Molotov à proximité de policiers et à proximité de la gare de Lille-Flandre en marge du rassemblement de la mi-journée sur les retraites. L'engin explosif n'a fait aucun blessé parmi les forces de l'ordre. Les suspects ont pris la fuite. Un homme de la sphère Macron dans la tourmente, Vincent Crase, un proche d'Alexandre Benalla, est en garde à vue.
Le problème, c'est une enquête sur un contrat signé entre sa société et un sulfureux oligarque russe.
Et puis, un mot de football ?
Exactement, avec le début ce soir des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Et on suivra particulièrement sur Europe 1 à partir de 21h le match Monaco-Lille.
Merci Florence, et vous revenez à 19h30 avec de nouvelles infos. Anissa, comment ça se passe ? On est prudent ? Il y a du vent demain ?
Oui, il y a beaucoup de vent demain, effectivement, Nathalie. Attention, si vous nous écoutez en Corse du Sud, sur la Côte d'Azur, le long de la Méditerranée, sur le Languedoc demain, c'est le vent d'est hein, que vous allez subir et le vent d'OTAN qui souffle jusqu'à 70 km/h. Le long de l'Atlantique, vous ne serez pas épargné. Sur les côtes de la Manche non plus, le vent du sud est lui aussi très fort demain avec sur la pointe bretonne des rafales même jusqu'à 90 km/h. Et puis côté météo, de ce qui va se passer au-dessus de vos têtes, sachez que dans le Gard, l'Hérault, la vallée du Rhône, l'Auvergne, le Nivernais, la Bourgogne et l'Alsace, demain votre journée va commencer sous la pluie, mais rassurez-vous, ces pluies vont s'estomper et même s'arrêter dans l'après-midi. Sur le reste du pays, le ciel est nuageux avec des éclaircies dans la journée. Les températures, elles sont douces, bien au-dessus des moyennes de saison. 3 à 13 degrés demain matin, 6 pour Paris. Dans l'après-midi, on aura 11 dans la capitale, 13 à Brest, Châteauroux et Colmar, 16 degrés prévus pour Toulouse et Clermont-Ferrand et 19 degrés demain après-midi pour un 18 décembre à Nice et Ajaccio. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Bonsoir Aurélie Herbemont.
Bonsoir.
L'interview politique, c'est avec vous dans une seconde. Et votre invité du jour,
Yann Brossa, porte-parole du Parti communiste. On va parler avec lui de la mobilisation contre la réforme des retraites.
L'interview politique d'Aurélie Herbemont, c'est dans un instant dans votre grand journal du soir sur Europe 1. Europe 1, la suite de votre grand journal du soir, et place à l'interview politique, Nathalie Lévy.
Avec votre invité dans ce studio ce soir, Aurélie Herbemont, Yann Brossa, porte-parole du Parti communiste.
Bonsoir Yann Brossa.
Bonsoir.
615 000 personnes dans la rue aujourd'hui selon le ministère de l'Intérieur, 1,8 million selon la CGT. Alors par rapport au 5 décembre, ça baisse pour la police, ça augmente pour les syndicats. Vous croyez qui ?
Je crois les syndicats. Et en tout cas,
c'est original.
Je crois surtout ce que je vois, puisque j'étais à la manifestation aujourd'hui à Paris, où j'ai constaté qu'il y avait un monde absolument énorme. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des mobilisations partout, y compris d'ailleurs dans des villes relativement petites, et qu'il y a donc une mobilisation qui ne décroît pas et au contraire qui s'accroît et qui s'élargit, puisqu'un certain nombre de syndicats, notamment la CFDT, ont défilé aujourd'hui.
Les méthodes de comptage des préfectures ne sont pas fiables selon vous ?
Non, mais moi je ne suis pas là pour discuter arithmétique. La réalité, c'est qu'il y a à la fois beaucoup de monde dans la rue et qu'il y a beaucoup de monde qui soutient la mobilisation. Et pour le coup, les sondages sont éloquents. Il n'y a jamais eu autant de gens qui soutiennent la mobilisation. Donc il y a bien sûr les gens qui sont dans la rue, il y a aussi tous les gens qui les soutiennent, qui n'ont pas forcément les moyens d'aller à la manif, mais qui, comme eux, ne veulent pas de cette réforme des retraites.
Mais alors justement, avec le soutien dont vous parlez, il aurait pu y avoir, même si on prend le chiffre de la CGT, il n'est pas exponentiel par rapport au 5 décembre.
Mais on est sur un jour de semaine. Et donc les gens
le
qui
5
se...
décembre aussi.
Oui, mais les gens qui se mobilisent sont des gens qui perdent une journée de salaire. Et ça n'est pas évident de perdre une journée de salaire, surtout quand on a des petits revenus. Donc c'était une très belle mobilisation, une mobilisation réussie. Et je pense que le gouvernement ferait bien d'y réfléchir à deux fois s'il envisage de continuer comme ça.
Alors justement, vous dites quoi au gouvernement ? Quel que soit le chiffre qu'on prend, c'est une mobilisation forte. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir après cette nouvelle journée de manifestation ?
Je leur dis un mot, retrait. Et je ne pense pas que le gouvernement pourra continuer à rester droit dans ses bottes et à nous expliquer que sa réforme des retraites va passer. Donc le gouvernement doit retirer cette réforme, remettre tout le monde autour de la table et discuter sérieusement pour améliorer notre système de retraite et certainement pas détruire nos retraites par répartition comme il envisage de le faire.
Le Premier ministre reçoit les syndicats. Demain, il y aura des discussions. Pour vous, tout est acheté dans ce projet de réforme ?
Dans le projet de réforme actuel, oui, parce que c'est sa philosophie qui est mauvaise. Nous n'avons pas besoin de passer de notre système actuel à un système par points.
Rien ne justifie. C'est une promesse présidentielle.
Oui, mais enfin, les Français n'ont pas voté pour Emmanuel Macron parce qu'il s'est engagé à mettre en place une réforme des retraites par points. Je vais même vous donner un scoop. J'ai voté pour Emmanuel Macron au deuxième tour de la présidentielle face à Madame Le Pen. Ce n'est pas parce que je voulais qu'il mette en place une réforme des retraites par points. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de changer de système ? Parce que nous avons l'un des systèmes les plus justes au monde. La meilleure preuve, c'est que nous avons le taux de pauvreté des retraités, l'un des plus bas
de toute l'Union européenne, deux fois moins que la moyenne de l'Union européenne. En revanche, il y a un certain nombre de trous dans la raquette. Il y a un certain nombre de situations qui ne sont pas acceptables.
Les agriculteurs, par exemple, le gouvernement dit que c'est injuste pour les agriculteurs.
Vous vous
et là, ça devrait aller mieux avec le nouveau système.
Mais vous vous rendez compte qu'il y a un an, les parlementaires communistes ont déposé une proposition de loi pour rehausser les retraites agricoles, pour qu'il n'y ait pas de retraite agricole en dessous de 85% du SMIC. Et qui est-ce qui l'a rejeté ? C'est le gouvernement. Et maintenant, ils nous disent qu'il faut accepter la réforme des retraites que nous allons mettre en place pour pouvoir revaloriser les retraites agricoles. C'est du foutage de gueule. Il suffisait de voter la proposition de loi des parlementaires communistes. Et on n'a pas besoin de mettre à bas tout notre système de retraite pour pouvoir revaloriser les retraites agricoles.
Édouard Philippe voit demain donc, les syndicats, je le disais tout à l'heure. Il se disait ce matin devant les députés de la majorité raisonnablement optimiste. Vous pensez qu'il peut parvenir à un accord avec les syndicats réformistes, la CFDT, l'UNSA par exemple, et vous leur dites quoi ? Surtout ne topez pas avec le gouvernement ?
En tout cas, pour l'instant, à chaque fois qu'il a ouvert la bouche, il a conduit au fait que la mobilisation s'est élargie. La dernière fois qu'il a parlé, il a de fait jeté la CFDT dans les bras des autres syndicats qui se mobilisaient déjà à l'occasion du 5 décembre. Donc non, je pense que le président de la République comme le Premier ministre devront revoir leur copie en profondeur et ne pourront pas continuer à imposer cette réforme qui est rejetée par la majorité des Français.
Est-ce que, au Parti communiste, vous appelez à continuer la grève ? On a entendu tout à l'heure Laurent Berger, qui dit, donc le leader de la CFDT, qui dit qu'il faut une forme de trêve jusqu'à janvier, jusqu'à début janvier, pour que les Français puissent profiter de Noël. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là ? Faisons une pause pour que les gens puissent circuler et fêter Noël correctement avec leur famille.
C'est aux syndicats de définir les formes de la mobilisation. Et d'ailleurs, ça n'est pas aux partis politiques de dire comment les syndicats doivent décider de leur forme de mobilisation. Nous ne l'avons jamais fait d'ailleurs. Nous sommes là à la fois pour soutenir les mobilisations sociales et pour apporter des solutions alternatives. Parce qu'il y a des solutions alternatives. Et puisque vous évoquez la question de la trêve et la question de Noël, personne ne peut souhaiter le blocage. Simplement, la responsabilité du blocage, aujourd'hui, c'est la responsabilité du gouvernement.
C'est pas les grévistes.
Et d'ailleurs, c'est la responsabilité du gouvernement. C'est le gouvernement qui a fait le choix de présenter cette réforme à quelques semaines de Noël. Et d'ailleurs, quand on interroge les Français et qu'on leur demande qui est responsable de la situation, dans leur grosse majorité, ils disent que c'est la responsabilité du gouvernement. Donc le gouvernement ne peut pas se défausser sur les syndicats.
En tout cas, vous ne dites pas au syndicat, une petite pause à Noël, quitte à reprendre en janvier, ce qui est principe d'une trêve.
Je dis au gouvernement de mettre sa réforme au frigo afin que le climat puisse s'apaiser.
Alors, la réforme des retraites, pour l'instant, n'a plus de monsieur retraite au gouvernement, puisque Jean-Paul Delevoye a démissionné hier et on n'a à l'heure actuelle pas encore le nom de son successeur. Est-ce que vous considérez qu'il y a un problème, des trous dans la raquette, quand on fait entrer des personnalités au gouvernement ?
En tout cas, là, il y a manifestement un raté. On en est d'ailleurs, je crois, depuis le quinquennat Macron, qui s'était ouvert d'ailleurs sur une loi de moralisation de la vie politique, à la 12e démission. Donc oui, il y a un certain nombre de questions à se poser, d'autant que le secrétaire général du gouvernement était au courant de la situation
de
Jean-Paul Delevoye.
Alors Matignon dit non.
Oui, enfin, il y a eu des révélations du Monde qui sont extrêmement claires sur cette question. Donc oui, il y a des questions à se poser. Mais surtout, la situation de Jean-Paul Delevoye éclaire la réforme des retraites rétrospectivement. Parce que, vu les liens qu'il entretenait avec le secteur de l'assurance, on voit que derrière ce projet, il y a en réalité la volonté de mettre en place un système à l'américaine avec des fonds de pension et la casse de notre système de retraite par répartition. Pour moi, c'est ça le cœur du sujet. C'est le lien entre ce pouvoir et le monde de l'argent.
Vous y allez fort, lien entre le pouvoir et le monde de l'argent.
C'est un fait que beaucoup de ministres sont des gens qui ont été très liés à des lobbies et au monde de la finance. Et cela a quelques conséquences sur les réformes qu'ils mettent en place.
Vous pensez du coup qu'il faut davantage de contrôle, de filtre avant de nommer un ministre ? Parce que là, effectivement, on voit qu'il y a peut-être eu quelques petits problèmes.
Oui, à l'évidence. Simplement, si les lois avaient été respectées, il n'y a pas besoin de légiférer davantage. Si les lois avaient été respectées, Jean-Paul Delevoye n'aurait pas été dans cette situation-là, puisque, en l'occurrence, on n'a pas le droit, de par la Constitution, de cumuler un revenu de ministre et un revenu complémentaire lié à une activité. Or, c'est exactement ce qu'il a fait. Et donc, le problème, en l'occurrence, c'est celui du respect de la loi.
Merci beaucoup, Yann Brossat, d'avoir été mon invité.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy. Restez avec nous à 19h30. On va décompresser un peu avant Noël des humoristes tous les soirs de cette semaine. Le comte de Bouderbala, Stéphane De Groot, Stéphane Guillon. Et ce soir, Haroun. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais en
l'excellent.
Fait, si, voilà, c'est Haroun. Une révélation. Il est excellent. Il n'est pas loin. Il s'installe. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas loin qu'on dit ça. C'est parce qu'on aime vraiment. Vous voulez l'interroger, c'est au 3921.
Vous pouvez également poser toutes vos questions à Haroun et venir réagir en direct. Ça se passe aussi sur Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir. C'est jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir, tous les jours, juste avant 19h30. Nathalie Lévy, on regarde ce qui va se passer demain.
Demain en France, demain dans le monde, demain dans vos vies. Demain en France, on commence par le Sud-Ouest avec un zoom sur l'association Tout le monde contre le cancer qui organise des fêtes en famille dans de nombreux hôpitaux. Stéphane Place, bonsoir. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans ce Sud-Ouest qu'on aime tant. Malgré les traitements souvent lourds, c'est l'occasion d'une pause, d'un sourire.
Exactement, cette opération que mène chaque année cette association aveyronnaise créée à Villefranche-de-Rouergue se déroule partout dans l'Hexagone. Elle a débuté au centre hospitalier de Carcassonne il y a quelques jours. Demain, ces fêtes de Noël auront lieu à Auch, Montauban, Rodez et puis à l'Institut Gustave Roussy en région parisienne ou encore à Lens, Fontainebleau, Nice et j'en oublie. 7000 cadeaux distribués, des spectacles, des ateliers de pâtisserie, des sapins décorés bien sûr, dans des services où sont hospitalisés des enfants ou des adultes. Et à chaque fois, l'association adapte le programme. Mélanie Hameau de l'association Tout le monde contre le cancer.
Ça va de simple distribution de cadeaux à l'organisation d'une fête avec des interventions de magiciens, artistes, etc. On a des hôpitaux où on sait qu'on va voir que des adultes, donc on va essayer de faire intervenir des magiciens qui vont nous faire des tours un peu plus impressionnants. D'autres fêtes où on sait qu'on a que des petits, donc là on va faire venir les personnages de Pat Patrouille, des clowns, des chanteurs qui parlent aux plus jeunes. Ce sont des bénévoles qui vont nous aider à installer tout simplement le goûter, la décoration. On a une centaine d'artistes qui interviennent sur ces 40 fêtes et on n'a vraiment aucun artiste qui est rémunéré. Ils viennent tous bénévolement. Donc que ce soit la grande harpiste qui vient de l'opéra de Bruxelles jusqu'au clown du village d'à côté, hein, tous viennent bénévolement. L'idée, c'est vraiment d'être là autour de la famille, puisqu'on y invite donc bien sûr les enfants hospitalisés, mais aussi leurs parents, les accompagnants et les frères et sœurs.
2 mois et demi, Nathalie, de préparation pour mener cette grande opération. Un immense coup de chapeau amplement mérité à tous ces bénévoles de Tout le monde contre le cancer. Et puis, c'est important de le souligner, l'association pense à convier aussi celles et ceux qui travaillent dans ces services, au service des patients au quotidien, c'est-à-dire le personnel soignant.
Ah oui, c'est magnifique ce qu'ils font. Ils œuvrent comme ça depuis 14 ans avec des actions un peu partout en France, dans les hôpitaux, les maisons de parents, pour adoucir la vie des familles touchées par la maladie. Merci beaucoup. Merci à vous Stéphane Place. Demain dans le monde, on s'éloigne un peu, on regarde ce qui se passe avec vous Didier François, parce que Emmanuel Macron se rendra en Afrique le week-end prochain, en Côte d'Ivoire très exactement. Il fêtera Noël sur place avec les soldats français déployés là-bas.
Effectivement, un réveillon sera organisé vendredi soir, c'est sur le camp de Port-Bouette, qui en importance est la seconde base opérationnelle avancée sur le continent après celle de Djibouti. Il y a un petit millier d'hommes qui est stationné en permanence depuis la fin de l'intervention Licorne, qui a permis de rétablir la paix dans ce pays en janvier 2015. Et c'est donc à la fois un hommage rendu à tous ces soldats déployés loin de chez eux en période de fête pour assurer notre sécurité, et puis le moyen de rappeler que toutes nos opérations en Afrique ne sont pas forcément condamnées à l'échec, cela à un moment où on voit poindre des interrogations, voire des doutes dans notre opinion publique et dans les opinions africaines sur la pertinence de l'engagement militaire de la France au Sahel, puisqu'on a vu se cumuler au cours de ces dernières semaines cet accident d'hélicoptère terrible qui a coûté la vie à 12 soldats français, mais également plusieurs attaques dramatiques contre des bases au Mali, au Burkina Faso et au Niger, qui ont montré l'incapacité de ces pays africains à prendre en charge leur propre sécurité.
Et ce qui ne les empêche pas de critiquer la présence militaire française. Hein.
Oui, ou de la laisser critiquer quand ça les arrange, parce que ce n'est pas toujours facile de reconnaître ses faiblesses, et moins encore la corruption, qui est souvent la cause de l'inefficacité des forces armées locales. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Emmanuel Macron a voulu que se tienne à Pau un sommet des 5 pays du Sahel les plus touchés par le terrorisme, et il aura donc lieu le 13 janvier prochain, parce que face à cette menace commune, il faut éviter les petites manœuvres politiciennes, réaffirmer le cadre légal de Barkhane, rappeler que l'intervention française s'est faite à la demande des États du Sahel, montrer en fait un front uni, c'est indispensable pour relancer le partenariat, le développer sur des bassins et surtout espérer pouvoir l'élargir à de nouveaux pays européens qui veulent entendre ces clarifications avant d'engager leurs armées à nos côtés.
Et on suivra ça de près avec vous. Merci beaucoup Didier François. Demain Merci. Dans nos vies, le rendez-vous pour nous projeter dans le monde de demain. Théophile Cossa aux commandes. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
On n'arrête plus Google. Le géant américain vient d'annoncer avoir cartographié 98% des régions où vit la population mondiale.
Oui Nathalie, ce qui fait de Google le premier cartographe du monde. Tout ça grâce à son application Google Earth, vous savez, qui permet aux internautes de visiter la Terre via des images satellites. Rendez-vous compte, depuis son lancement en 2001, Google a ainsi photographié depuis le ciel 93 millions de kilomètres carrés. Un trésor qui lui permet d'ajuster avec une précision dingue les cartes de Google Maps dont vous vous êtes certainement déjà servi.
Le consommateur et à outrance. Oui, alors Google Maps, bien sûr. Ça, c'est pour les plans, mais Google fait également plus que ça. Il photographie aussi les routes du monde depuis la Terre.
Oui, Nathalie, hein, vous savez, avec son application très populaire et très pratique, Google Street View. Alors, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas le principe. Lorsque vous recherchez une adresse sur Internet, vous pouvez, grâce à Google Street View, consulter une photo de l'adresse recherchée, ce qui permet de repérer, par exemple, la présence d'un commerce où vous vous comptiez
la façade
vous
de l'immeuble, etc.
Exactement. Ouais. Un service rendu possible grâce à ces voitures que vous avez peut-être déjà croisées, qui ont des caméras fixées sur le toit et qui capturent les images autour en haute définition. Bah, grâce à ces voitures, ce sont 16 millions de kilomètres de routes qui ont été photographiées. Ça fait l'équivalent quand même de 400 voyages autour du monde. Pas mal. Et pour obtenir les images des routes les plus impraticables, Google est prête à tout, comme fixer ses caméras sur le dos de randonneurs et même sur le dos de moutons ou chameaux.
Véridique. Sur notre dos alors.
Pourquoi pas. Voilà. Si vous ne le saviez pas, c'est maintenant chose faite. Google a des yeux absolument partout et pas seulement sur Internet. Ouais. Il ne nous reste plus qu'à sourire. Peut-être un peu jaune.
C'est Big Brother. Ah bah on le savait. Merci beaucoup. Merci Théophile Cossa.
Europe 1.
Nathalie Lavie, la suite du programme avec vous, parce que le grand journal c'est jusqu'à 20h.
Mais bien sûr, alors allez, encore une demi-heure ensemble et avec le sourire, le rappel des titres de Florence Cohen d'abord. Et puis si on souriait un peu dans cette actualité morose toute la semaine, on invite des humoristes à notre table, dans notre studio ce soir, un jeune prodige de la nouvelle scène. Il s'appelle Haroun, il va s'installer. Oui, je vous promets, il est là, je vois.
C'est notre chouchou, c'est lui, quand même, tout de suite. Cette semaine. Merci beaucoup Nathalie Lavie. Pour parler à Haroun, c'est le 39-21. Vous pouvez composer dès maintenant. 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Florence Cohen le rappelle des titres.
615 000 manifestants dans toute la France, c'est moins que les 800 000 du 5 décembre. La CGT a compté 1 800 000 personnes sur tout le territoire. 76 000 personnes à Paris contre la réforme des retraites, chiffre du ministère de l'Intérieur. Le cabinet indépendant Occurrence, dont Europe 1 est partenaire, a recensé 72 500 personnes. Sur Europe 1, le leader de Force ouvrière, Yves Verrier, appelle Édouard Philippe à la raison et se dit prêt à ne rien lâcher, même en janvier. Le Premier ministre, qui se dit déterminé à mener à bien sa réforme, il recevra les syndicats un par un demain. Trafic toujours perturbé demain à la SNCF. Un Transilien sur 4, 4 TER sur 10, un Intercité sur 6, 8 lignes du métro parisien fermées. La SNCF qui promet d'acheminer les passagers munis de billets TGV. Pour les autres, c'est plus aléatoire. Aspirine, Doliprane et Advil ne seront plus en vente libre chez le pharmacien à partir du 15 janvier. Ils seront rangés derrière le comptoir pour éviter l'automédication abusive.
Merci beaucoup Florence. Merci à vous. Anissa, ça va souffler demain.
Oui, ça va souffler fort. Attention, en Corse du Sud, sur la Côte d'Azur, le long de la Méditerranée, sur le Languedoc, là, le vent d'Est souffle. Le vent d'OTAN également se lève jusqu'à 70 km/h en rafale. Le long de l'Atlantique, vous n'êtes pas épargné non plus. Sur les côtes de la Manche, jusqu'en Bretagne et même jusque sur les côtes de la mer du Nord, le vent du Sud, lui aussi, souffle fort avec, sur la pointe bretonne, 90 km/h demain après-midi en rafale. Côté ciel, dans le Gard, l'Hérault, la vallée du Rhône, l'Auvergne, le Nivernais, la Bourgogne et l'Alsace, votre journée débutera sous la pluie, des pluies qui s'arrêteront dans l'après-midi. Les températures, elles sont très douces pour la saison. Écoutez les tendances pour demain après-midi. Nous aurons 11 degrés à Paris demain, 13 à Brest, Châteauroux et Colmar, 16 pour Toulouse et Clermont-Ferrand et jusqu'à 19 degrés demain après-midi à Nice.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, jusqu'à 20h. Toute cette semaine, vous recevez des humoristes pour voir l'actu autrement, pour finir l'année avec le sourire.
Et ce soir, c'est Haroun qui s'est installé juste à côté de vous dans ce studio. C'est pas juste. Bonsoir Haroun.
Bonsoir.
Bienvenue. Non, on plaisante parce que véritablement, on a bossé sur votre travail, vos sketchs cet après-midi.
On s'est marré.
surtout. Ouais, votre biographie aussi. Et on apprécie d'autant plus maintenant que vous êtes là et qu'on sait que vous avez fait 40 km à vélo pour venir nous voir. Non, pas loin, ça, ce sera
non,
quand on comptera le retour.
Globalité de la journée. Ouais.
Voilà. Bon, bienvenue à Haroun. Vous installez du 19 décembre au 2 février 2020 au Théâtre Édouard VII à Paris. C'est presque 2 mois. Hein. Ensuite, tournée dans toute la France.
Oui, c'est ça.
Théâtre Édouard VII, c'est rare les humoristes au Théâtre Édouard VII.
On se soigne bien. Non, mais oui. c'est très bien. Je suis
c'est
très,
un honneur
que
vous viviez comme ça
Complètement, avec un peu de pression aussi. C'est un théâtre en effet qui est habitué plus aux pièces, type Pierre Arditi, tout ça. Exactement. Donc il y a une grosse pression des prédécesseurs. Quoi.
Bah oui. Bon, bah tant mieux. En tout cas, si on vous ouvre les portes, c'est que ça y est, vous faites partie de la grande famille des humoristes. Et des humoristes, j'allais dire, intelligents, chics. D'ailleurs, je lisais Télérama, Les Un Rock, Le Monde, Libération. Tout le monde vous aime, Haroun. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?
Je les drogue. je mets du GHB avant les interviews et comme par hasard ça fonctionne. Je sais pas ce qui fait ça. Peut-être le fait que j'ai apporté quelque chose d'un peu nouveau, une façon de traiter l'actu ou traiter les sujets un peu sociétaux de manière un peu populaire.
Mais intelligent. C'est toujours ciselé, c'est toujours précis et c'est ce que vous dites d'ailleurs. Hein, vous ne vous en cachez pas. C'est toujours bienveillant aussi. Il y a la petite pointe de cynisme, mais il y a la bienveillance. Oui. C'est peut-être ça la recette, vous croyez, aujourd'hui ?
Oh, je pense qu'on a toujours besoin de bienveillance, hein, surtout en ce moment, on a besoin de bienveillance. Mais en effet, j'essaie d'avoir assez de recul pour aborder les sujets avec un angle d'autodérision. Donc j'essaie d'être un peu idiot, mais d'avoir une réflexion qui va jusqu'au bout. En étant un peu idiot quand même. Donc je me mets en dessous du sujet pour pouvoir le traiter, quoi.
Ouais. Alors vous dédramatisez, en fait,
c'est
d'une
ça.
Certaine manière. Vous dédramatisez, vous contournez, c'est très habile. On écoute d'ailleurs un premier extrait.
Bon, déjà Castaner, qui m'a beaucoup impressionné, quand il a décrit les musulmans radicalisés, c'était assez intéressant. Il a quand même oublié un élément. C'est que souvent, quand il y a des attentats, il y a des gens qui témoignent, ils disent « Ouais, on connaissait le terroriste, c'était notre voisin. » Et il disait « Bonjour. » Méfiez-vous des gens qui disent « Bonjour. » L'avantage, c'est que nous, à Paris, c'est facilement repérable. Hein, moi, dès que je vois un mec qui me dit « Bonjour, balayette !» Et j'appelle Castaner.
En fait, c'est marrant parce qu'on a l'impression que vous tirez sur le fil qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas repéré ou alors qui était passé comme ça inaperçu. Vous tirez juste sur celui-là, celui qui fait pas mal et qui fait clairement rire.
Ouais, bah voilà, c'est ça. Mais l'idée, c'est d'aborder un sujet en essayant de l'aborder un peu plus sereinement, avec un peu plus de détente. Et surtout, bah là, c'est ce que je dis, c'est une réflexion un peu idiote sur
mais
les gens
idiot,
qui disent bonjour.
Mais c'est pas idiot, c'est malin.
Mais le personnage est idiot pour arriver de façon maligne un peu sur le sujet, quoi.
Ouais, c'est ça. Ça vous vient d'où? Comment vous travaillez ça? Parce que du coup, vous étudiez à chaque fois, vous essayez de repérer comme ça le point qui va faire mouche. C'est une écriture, c'est voilà, en regardant la société.
Oui, alors il y a le fait déjà d'essayer de déconstruire tout en l'extrapolant, c'est-à-dire que si je prends souvent un sujet, puis j'essaie de voir comment ça se passe si on le traite à l'extrême et de voir qu'est-ce que ça engendre comme conséquence, et après je le traite comme ça. Donc il y a cette déconstruction qui permet en plus de prendre du recul. Et aussi, le truc, c'est qu'il faut essayer de pas mettre d'émotion quand on traite le sujet, c'est-à-dire qu'on met pas d'émotion et après on la transforme en rire.
Donc, c'est ça, la déconstruction, c'est exactement comme ça que j'imaginais que vous pouviez construire vos sketchs. Enfin, je me permets d'imaginer, mais enfin, je suis peut-être très
loin
du compte.
Mais
je me disais que ça venait peut-être aussi de votre formation, de vos études. Vous avez fait des études d'économie, on déconstruit aussi en économie. Enfin, en tout cas, on essaie d'expliquer un process. Ouais. Vous avez un parcours assez classique.
Oui, bah j'ai fait une école de commerce, mais en fait, je pense que c'est surtout la lecture qui m'a appris ça. C'est surtout les auteurs qui vont très loin dans les détails, qui vont observer des petites choses comme ça, et qui arrivent à soulever ces petites choses. Et en fait, moi, c'est ça qui m'inspire beaucoup, et j'essaie de m'inspirer de ça, quoi.
On va évidemment prendre des auditeurs dans un instant parce que beaucoup appellent pour vous poser des questions. On va entendre aussi des extraits de vos sketchs. Mmh. On aimerait bien savoir d'où vient Haroun, ce prénom, d'où vient Haroun tout court, parce que on sait que vous avez une trentaine d'années, mais c'est pas plus précis que ça. Moi, j'ai envie de tout savoir.
Ah ouais.
Et si vous aussi, vous voulez poser vos questions à Haroun, n'hésitez pas, ça se passe au 3921 et sur Twitter. On vous lit également avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et jusqu'à 20h, Nathalie Lévy, toute cette semaine.
on se détend, hein, on prépare les fêtes avec des humoristes qui sont vos invités. Et ce soir, vous recevez Haroun.
Haroun qui est du 19 décembre au 2 février au théâtre Édouard VII à Paris et pour presque deux mois et puis ensuite tournée dans toute la France. Ça a commencé d'ailleurs la tournée.
Ça a commencé depuis l'année dernière.
Exactement. Ouais. Bon Haroun, on va pas se mentir, on vous a posé la question de vos origines. Elle revient dans chaque interview qu'on a lue. On n'arrive pas à savoir une trentaine d'années mais pas plus.
Peut-être que je sais pas moi-même.
Peut-être que vous avez pas moi-même. Mais franchement, ça va pas tenir longtemps ce que disait Anissa très justement. Les réseaux sociaux sont là. On sait très bien que sur le web, tout le monde enquête, etc. Il va falloir lâcher un moment.
Ben j'aimerais bien en parler dans une œuvre complète où j'explique tout bien. Parce que j'ai
mais
pas
quoi,
envie.
Un spectacle
ou autre chose,
ou
je sais
un
pas.
Livre,
mais...
parce qu'on connaît.
Ouais, ça serait le rêve. Mais...
Pourquoi ? Parce que c'est aussi ce sur quoi vous travaillez, un livre ?
Non. Enfin, j'aimerais bien un jour écrire un livre ou des livres. Ça, c'est. Il n'y a pas de secret là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose que j'admire. Oui. Mais en fait, j'ai envie de tout bien expliquer le jour où je révélerai mes origines. Quoi. J'ai envie de comprendre qu'est-ce que c'est que la complexité de ces origines, pourquoi on veut savoir, pourquoi on a besoin de nous familiariser avec ça, est-ce que ça fait partie de l'identité ou pas. Voilà, donc c'est un ensemble de réflexions que j'aimerais bien accompagner de cette révélation.
D'accord, donc pas sur scène dans un sketch, ce ne sera pas fait de manière humoristique.
Peut-être que si, je ne sais pas.
Peut-être que si, et c'est pour bientôt ?
Oh non.
Ah non. Donc là, pour l'instant, vous gardez secret parce que vous pensez que c'est votre atout majeur. Enfin, c'est un de vos atouts majeurs.
Oui, ça m'a permis de dire un peu ce que je voulais sur scène sans qu'on me reproche quoi que ce soit en disant ah ouais, mais tu dis ça parce que t'es comme ça et t'as le droit de le dire. On t'embête pas parce que t'es comme ça. Et non, en fait, je pense que c'est pas une question.
Vous avez failli lâcher là, mais bon, on n'y est pas arrivé. Benjamin nous appelle depuis Paris. Bonsoir Benjamin. Votre question pour Haroun, bienvenue.
Bonsoir à tous. Bonsoir Haroun.
Bonsoir.
Déjà, merci Haroun de passer. Grève, hein, parce qu'on peut plus se déplacer, mais on peut encore un petit peu rigoler, donc c'est cool.
Ouais, c'est
moi, je fais un petit peu de scène sur Paris et je remarque qu'il y a de plus en plus d'humoristes assez connus qui lancent leur plateau d'humoristes. J'ai vu qu'aujourd'hui, Charlie Soignon, et là tout récemment, Farid qui a ouvert les Madame Sarfati, c'est ça hein. Est-ce que vous, c'est un projet que vous auriez peut-être bientôt d'ouvrir votre propre plateau d'humoristes?
C'est pas un projet que
merci
j'ai.
Benjamin.
Là, j'ai beaucoup trop à faire avec l'écriture pour m'occuper de tout ce qu'il y a autour de l'organisation d'un lieu. Et je pense que c'est beaucoup de travail à côté de la scène. Et pour l'instant, j'ai encore beaucoup de choses à faire sur scène.
Oui, je crois même que vous avez. Bon, évidemment, on vous a connu chez Thierry Ardisson, mais vous avez refusé ou pas une chronique régulière sur un média autre.
Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois de refuser. Déjà parce qu'en effet, ça prend beaucoup de temps et ça demande beaucoup de concentration. Et parce que aussi, quand j'écris, j'ai un rythme un peu particulier qui correspond pas à tous les médias.
C'est-à-dire
que je joue avec les contretemps. En fait, ce qui m'avait pas plu, par exemple, chez Ardisson, c'était le montage. Et le montage, parfois, tombait à des moments où, pour moi, c'était important qu'on reste sur l'image.
Je voudrais qu'on vous écoute sur scène, parce que c'est là, évidemment, que vous excellez, sur des sujets de société, parce que vous travaillez sur la société, à la fois nos personnages politiques, à la fois les grands thèmes. Écoutons.
Personne n'est d'accord sur ce truc. Même les musulmans entre eux sont pas d'accord sur le voile. Non, il y a plein de raisons, chacun a ses raisons. J'ai demandé à un pote musulman, j'ai dit pourquoi les femmes elles portent le voile? Il dit c'est pour cacher leurs cheveux, pour pas séduire les hommes. J'ai dit donc toi, la première chose que tu regardes chez une femme, c'est les cheveux? Il m'a dit mais grave pas. Il m'a dit moi c'est les monnaies moi. J'adore les monnaies moi. Moi ma femme elle a pas le voile, elle a les chaussettes de foot.
Excellent. Mais franchement, c'est excellent. Mais vous faites comment? Vous vous dites, j'ai des limites, je me fixe telle limite. Comment vous travaillez sur ces sujets-là? Que ce soit le voile, que ce soit MeToo, par exemple. Voilà, l'antisémitisme, la religion.
Moi, ma limite, c'est de faire rire la personne qui est concernée par le sujet. Donc, je me pose toujours la question, comment je vais m'adresser à cette personne-là pour lui dire mes faiblesses et ce que je comprends pas chez cette personne et comment je vais essayer de la faire rire avec ce sujet-là. Donc, quel que soit le sujet que je traite, j'essaie de me poser la question, est-ce que si la personne est concernée et est dans la salle, est-ce que je vais réussir à l'emporter ou pas?
Anissa ?
Alors moi, j'ai eu la chance de voir Haroun fin 2015, début 2016, dans une toute petite salle à Paris. Hein. On ne connaissait pas encore Haroun. Et c'était au lendemain des attentats qui avaient meurtri Paris, qui avaient touché la ville. Et vous avez quasiment fait tout le spectacle, enfin en tout cas une grande partie du spectacle, sur les attentats, sur le fait d'être dans une salle fermée, avec un humoriste, que des gens pouvaient arriver à tout moment dans cette salle. Comment vous prenez la décision d'aborder des sujets aussi traumatisant, surtout au lendemain de ce qui venait de se passer.
Ben, parce que ça me traumatise et que moi, ma manière
Vous le faites en riant.
Oui, mais ma manière de m'exprimer, c'est celle-ci. Dès qu'il y a quelque chose qui me touche particulièrement, j'ai envie de l'exprimer. Et après, le rire, c'est une émotion que je choisis, moi, parce que j'ai des affinités avec ça, mais il y a des gens qui vont le rendre dramatique et d'autres qui vont le transformer en comédie.
Donc il n'y a pas de tabou avec vous ?
Non, il n'y a pas de tabou. Heureusement qu'il n'y a pas de tabou parce qu'il faut absolument pouvoir mettre l'émotion qu'on veut sur n'importe quel sujet.
Areski nous appelle. Areski, bonsoir. 24 ans.
Areski. Allô,
oui. Oui, bonsoir, oui, bienvenue.
Bonsoir à tous,
bienvenue au micro d'Europe 1.
Bonsoir Haroun.
Je vous en prie, posez votre question.
Alors, Haroun, j'ai une question. Que pensez-vous du phénomène copie-comique ?
Ah bah oui, copie-comique. Il faut expliquer ce que c'est. Hein. Ouais. Copie-comique, c'est ce qui a secoué la planète comique, qui a dénoncé des plagiats, et notamment Gad Elmaleh, qui a été visé, Thomas N. Gijol, même le comédien Thomas Sisley. Hein. Ils ont tous été secoués.
Oui.
Vous adhérez ?
À quoi ? À copie-comique ?
Non, mais c'est une bonne chose pour vous ou pas ?
Moi, je pense que ça a été à un moment une bonne chose pour révéler le danger de copier à l'avenir. Après, en fait, ça ne me regarde pas la façon dont les gens ont envie de créer leur spectacle. Et ça, ce n'est pas à moi de juger. S'ils ont envie de s'inspirer grandement des humoristes américains, ce n'est pas vraiment à moi de juger. Moi, c'est quelque chose que je trouve dommage parce que ça ne me plairait pas de le faire. Étant donné que j'ai vraiment du plaisir à écrire et à...
Parce que vous inspirez de personne.
Oui, mais... Alors si, bien sûr. Mais il y a plein d'inspirations que j'ai.
J'imagine, outre la société, attention.
Mais moi, Coluche m'a beaucoup marqué, des proches m'ont beaucoup marqué.
Dans nos contemporains
dans les contemporains, en général, quand la blague est déjà traitée, en fait, je me dis que j'ai pas à la retraiter.
Parce que c'est pas une inspiration, mais en tout cas, c'est vos certaines références alors contemporaines.
Mais j'ai des Ricky Gervais est une référence, par exemple, parce que j'adore tout ce qu'il fait et je pense que c'est une inspiration même inconsciente. Ouais. Maintenant, il faut quand même faire attention à pas répéter ce qui a déjà été fait, parce que autant envoyer vers ce qu'il a déjà fait plutôt que de le répéter. Maintenant, s'il y a des humoristes qui aiment bien, et je trouve ça dommage parce qu'il y a vraiment un grand plaisir à écrire ses propres vannes. Et l'autre truc que je voulais dire sur copie-comique, c'est que ça a été nécessaire à un moment, comme des révélations parfois sont nécessaires, pour que maintenant les humoristes se disent « Attention, faut que je fasse gaffe, parce que les gens sont sensibles à ça. »
Vous avez cité un anglo-saxon, mais pas de français hein, quand même dans vos références. Hein. On y revient dans un instant.
Cherchez
pendant la pub.
Il n'y a aucun problème.
Haroun est sur la scène du Théâtre Édouard VII du 19 décembre jusqu'au 2 février. N'hésitez pas à aller le voir. Et il est l'invité de Nathalie Lévy jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy. Vous recevez l'humoriste Haroun, puisque cette semaine, vous donnez la parole aux humoristes pour finir l'année en beauté tous les jours de 19h30 à 20h.
Et un autre humoriste qui arrive, Mathieu Chaille, pour nous parler cinéma dans une seconde.
Je vous garde la place.
Haroun, j'ai deux questions rapides, deux questions rapides, deux réponses rapides. Haroun, je vous ai demandé vos références ou vos inspirations contemporaines françaises, parce que Ricky Gervais, je suis désolée, on adore bientôt mettre de cérémonie... en Grande-Bretagne, aux États-Unis, mais pas français. Alors, en français.
Monsieur Fraise, j'adore Monsieur Fraise.
Ah, ouais.
Et j'ai même une anecdote par rapport au copie-comique tout à l'heure dont on parlait. J'ai mis une vidéo de petite bande-annonce pour un spectacle où je parle pas et j'ai mis que des silences de mon spectacle où les gens rigolent. Mais c'était des extraits, c'était un montage. Il y a des gens en commentaire qui ont dit « t'as copié Monsieur Fraise ».
Ah, ça y est.
Et donc là, il y a quand même la performance d'être l'humoriste plagié sur le silence.
C'est quand même énorme. Et alors justement, c'est la question qui va avec. Vous êtes clairement de la génération Instagram, Twitter, Snapchat. Et je suis sûr qu'il y en a plein que je ne connais pas, donc je ne vais pas les citer. Vous les utilisez, les réseaux sociaux, évidemment. Vous craignez la censure des réseaux sociaux ?
Non. La censure des réseaux sociaux, c'est-à-dire du public.
L'acharnement. Non, oui, du public.
Par contre, ce qui m'est arrivé, c'est que sur Facebook, la dernière vidéo, elle avait été supprimée par Facebook.
Par Facebook, directement.
Ouais, ils ont supprimé la vidéo, je ne sais pas pourquoi.
Pourtant, vous ne faites pas sous la ceinture.
Celle où vous annoncez le théâtre Édouard VII ? Cette
non,
vidéo-là ?
Non, celle qui s'appelle Pas que, où je parle d'antisémitisme et d'islamophobie. Et la Facebook avait supprimé cette vidéo pendant 24 heures, comme ça, sans que je sache réellement pourquoi.
D'accord.
Donc oui, je crains la censure des GAFA.
Des GAFA.
Ouais. Des GAFA. Ouais, ouais. Parce que les GAFA surveillent ce qu'on poste quand même.
Évidemment. Ouais. Pas que.
Pas que.
Haroun, vous regardez le cinéma ? Vous allez au cinéma ?
Oui.
Ok, alors cinéma ce mercredi, Mathieu, c'est Star Wars numéro 9 qui emporte tout sur son passage.
Oui, alors je l'ai vu ce matin, je n'ai pas le droit de vous en parler, je vais quand même vous en dire deux mots.
Vous contournez vous aussi.
Il faut faire attention parce que Star Wars, si vous dites le moindre élément de l'intrigue du film, vous vous faites incendier justement sur les réseaux sociaux parce que les fans sont très prudents et veulent absolument rien savoir avant. Je vais simplement vous dire...
Ils meurent
tous à la fin. Non, c'est le film qui clôt à merveille la grande saga. Vous savez, c'est la fin de la grande saga
Skywalker.
Alors il n'y a plus sur la grande saga, Princesse Leia, Luke, Dark Vador et compagnie et compagnie. Ça va partir dans plein d'autres univers. Donc, ça clôt plus de 40 ans d'histoire du grand Star Wars. Ça le clôt à merveille. Ça surfe sur la nostalgie. Et à la fin, vous verrez en salle.
Bon, c'est suspect. Quel teasing. Vous avez interviewé Luke Skywalker ?
Pas du tout. J'ai mieux à vous proposer. Si. Le seul acteur qui a participé à ces 9 Star Wars, à votre avis, c'est qui ?
Ah oui, si, je crois savoir.
Allez-y, je vous écoute.
Celui qui est dans Chewbacca, non ?
Non, dans C-3PO.
Ah,
Anthony Daniels. C'est le seul. Vous savez, alors, vous vous rappelez, C-3PO, c'est ce droïde là qui marche, qui a un peu l'apparence humaine. Vous allez peut-être reconnaître sa voix. Et lui m'a confié qu'il était quand même un peu soulagé de reposer ce costume. Écoutez-le.
Je suis content que c'est la dernière fois dans les films. C-3PO, il est un pas seulement de ma vie.
Vous deviez rester en forme physiquement aussi, vous ne pouviez pas grossir.
Oui, oui, c'est vrai. Il faut toujours aller au gym le matin parce qu'il faut être fort au centre pour porter le costume.
Combien il pèse le costume ?
Je crois peut-être 30 kilos.
Et comment on donne vie à un personnage qu'on ne voit pas, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas votre visage ?
Quand j'étais à l'école de drama en Angleterre, on a fait des classes en mime. Sans visage. Et il faut la tête, les épaules, etc. Il faut utiliser ce qu'il y a. Il y a des moments que oui, il est là, il est triste, il est heureux, il a peur. On peut lire sur son visage qu'il ne change pas.
Est-ce que les gens reconnaissent votre voix dans la rue ou...
Ah, bien sûr. Il y a beaucoup de gens dans la rue, dans beaucoup des pays. Ah, monsieur, vous êtes C-3PO. Et beaucoup des fois, les gens disent: je veux dire merci pour mon enfance.
Vous avez vu, on reconnaît bien sa voix quand même.
Ah oui, c'est impressionnant. 73 ans, très monsieur Daniels. Vous regardez Star Wars ?
Non, pas particulièrement.
C'est vrai, c'est marrant,
un petit peu
quand même.
Mais...
quand même
oui.
Ouais,
mais j'ai vu les premiers et puis après, j'ai décroché quand même. Ouais.
Bon, en tout cas, Star Wars 9, c'est demain matin en salle. Ouais. Allez-y.
Bon, si on préfère aller voir un film français, vous nous conseillez, Mathieu, Notre-Dame. En rapport avec Notre-Dame
exactement,
de Paris.
Exactement, oui, mais c'est Valérie Donzelli qui avait débuté ce projet avant l'incendie de Notre-Dame de Paris, et pourtant, il faut dire qu'il entre en résonance avec l'actualité. Je vous explique. Elle joue aussi le rôle principal de ce film, c'est Maud Crayon, jeune architecte, quarantenaire un peu débordée par la vie, elle doit gérer ses deux enfants, son ex-mari aussi qui squatte toujours son canapé. Mais surtout, figurez-vous qu'elle va se retrouver sélectionnée par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame, sélectionnée alors qu'elle n'a même pas postulé à l'appel d'offres, vous découvrirez pourquoi. Et à partir de là, Valérie Donzelli déroule un film léger, drôle, burlesque, d'autant que son projet de réaménagement du parvis, il est complètement loufoque et il lance un grand débat de société, comme actuellement, vous savez, pour la réfection de la flèche de Notre-Dame. Donc ce film, c'est aussi un hommage, évidemment, à notre ville, explique Valérie Donzelli.
Je trouve que Paris a complètement basculé dans une autre dimension depuis les événements de 2015, qui ont créé de l'anxiété dans la ville, de l'angoisse, de la paranoïa. Enfin, moi, ça m'angoissait. J'avais besoin, pour un peu pallier cette angoisse, de faire un film qui se passerait dans Paris et qui montrerait comment une femme essaie de rester verticale, de tenir les bons bouts, les deux bouts de sa vie, qui part un peu à volo comme ça, dans un esprit de solidarité, de générosité et de cœur.
Voilà, c'est un petit bonbon, hein, ce film qui a fait du bien en cette fin d'année, là, vous savez, pluvieuse, avec tous ces bouchons, toutes ces grèves, cette galère pour se déplacer. Voyez Paris sous un autre jour. Franchement, allez-y, ça s'appelle Notre-Dame.
Poétique et intelligent. Merci
exactement.
Beaucoup, Mathieu Charrier.
Je vous
revenez la semaine prochaine avec des DVD pour Noël.
On verra.
Même pas, il paraît. Et il repart avec ses DVD, ils sont là sous notre nez.
Ah oui, mais vous n'avez pas le temps d'en parler.
Haroun, merci beaucoup d'être venu nous voir dans
merci
les studios d'Europe 1. Du 19 décembre au 2 février 2020, vous vous installez au théâtre Édouard VII en plein cœur de Paris, pas très loin de la Madeleine, entre Madeleine et Opéra. On est en tournée ensuite et ça a déjà démarré dans toute la France. Merci à vous d'être venu. On viendra vous voir aussi. Et puis Émilie Mazoyer, je suis sûre qu'elle adore et qu'elle va faire comme nous.
Mais bonsoir, évidemment, bonsoir Nathalie. Bonsoir. Ça va?
Ça va,
Elissa? Super. Ce soir, j'ai décidé de vous faire découvrir un tout jeune groupe. Ils ont commencé à jouer ensemble il y a 2 ans. Il s'appelle Rosaway. She walks, 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 while we talk. C'est un duo, Rachel et Steph, et la petite originalité, c'est que Rachel, elle joue de la flûte traversière, et Steph de la batterie, et plein de machines, et ensemble, ils arrivent à faire cette chouette musique.
Ouais, c'est sympa, c'est frais. Hein.
Très frais, exactement, ouais. On aime bien.
Merci beaucoup, Émilie, à tout de suite. Merci à nos auditeurs fidèles. Demain, à votre place, Haroun, ce sera Stéphane Guillon, jeudi Stéphane de Groot, vendredi le comte de Bouderbala. On sourit, on vous informe sur Europe 1 chaque soir en direct, n'est-ce pas, Anissa?
Bien sûr.
Et on est là demain, donc à 18h.
Pour écouter le monde changé. Merci Nathalie Lévy.